PMU.fr est fier de soutenir Vue du Banc. Parce que pour bien parier, il faut bien comprendre le jeu.
Salut à tous, bienvenue dans le 50e épisode de la saison 5 de Vue du Banc. L'avant-dernier épisode de cette année de foot, le dernier est consacré à la finale de Ligue des Champions, il viendra la semaine prochaine. En attendant donc cet épisode bilan de Ligue 1, pour parler avec moi de cette saison coussi coussa, on va dire une saison mi-figue mi-raisin, mes deux compères habituels, Cédric Piolil et Nicolas Escudé. Cédric Piolil, c'est évidemment Raphaël Cosmidis de l'équipe, salut Raphaël.
Salut Christophe.
Le spécialiste du revers boisé et Nicolas Escudé. Nicolas Escudé, salut à Jean-Paul Lotte, c'est Florent Tenutier de Chronique Tactique, salut Florent.
Salut.
Alors, messieurs, comme je le disais dans la petite et magnifique introduction, la saison de Ligue 1 n'a pas été passionnante, à la fois au niveau suspense, même si il y a eu quelques petites batailles pour les places européennes en fin de saison et pour le maintien sur les dernières journées, c'était quand même pas foufou. Raphaël, pourquoi est-ce que c'était pas top? C'était d'ailleurs l'une des, peut-être même la première question qu'on a reçue, qui était de Brogdon, qui nous disait le niveau de la Ligue 1 a-t-il déjà été aussi faible? Alors je sais pas si il y a 40, 50 ans, il y avait pas des saisons parfois un peu nulles, quoique à la grande époque de Saint-Etienne, etc. Je suis pas sûr, mais en tout cas, on s'est pas spécialement régalé.
Ouais, je sais pas si c'est le niveau qui était aussi faible que ça, ou si c'était les 2-3 clubs qui mettaient de la concurrence et du suspense qui ont été en dessous. On peut penser à Lyon, à Marseille et à Monaco cette saison, qui s'étaient bagarrés bien plus fort la saison dernière. Donc je ne sais pas si c'est le niveau vraiment. Peut-être qu'il y a eu un départ de bons joueurs l'été dernier et on en souffre encore, mais c'est plus ce côté suspense et compétitivité entre les clubs à l'intérieur du championnat qui a été problématique. Que le niveau soit plus faible que la saison dernière, bon, on est habitué à ces variations en Ligue 1, parce que chaque été, les clubs sont obligés de vendre pour reconstruire leur budget, mais là c'est le fait que le titre a été joué, je pense, en février-mars, même avant il y avait de toute façon plus aucun doute, parce que Lille a été vite décroché il me semble, et du coup on savait qu'il reviendrait pas, même quand Paris a complètement arrêté de disputer le championnat en fin de saison. La deuxième place a été jouée également rapidement, Lyon revient un peu sur la fin, mais pendant la grande partie du championnat, Lille avait eu quand même pas mal de points d'avance. Il y a eu ce petit doute sur la troisième place qui a duré 2-3 semaines, et puis finalement Saint-Etienne perd contre Montpellier et à ce moment-là abandonne le projet. Donc ça a été très vite joué, et finalement là où il y a eu le plus de suspense, c'est pour cette 17e place, 18e place, où ça a fini 18e avec 34 points, et qui résume plutôt bien la saison, où Dijon pour l'instant se sauve, en attendant le barrage se sauve, mais avec un total de points qui l'aurait relégué, je pense, dans 99% des saisons de Ligue 1 dernièrement, donc c'est un bilan d'ensemble assez glauque, ouais.
Bah déjà, pour illustrer ton propos sur la première place, donc j'ai pris une date un peu aléatoire qui est le 31 décembre pour voir la situation au championnat à ce moment-là. Paris avait fait 17 matchs, 15 victoires, 2 nuls, 50 buts marqués, 10 encaissés, donc 47 points avec 13 points d'avance sur Lille qui avait 2 matchs en plus et qui avait mis 29 buts, donc soit 21 de moins, et encaissé 19, soit 9 de plus.
Et Lille avait combien de points d'avance sur Lyon à l'époque ?
Et Lyon était à 32, donc c'est 15 points, et Lyon avait un match joué en plus.
D'accord.
Donc potentiellement 18 points, quoi. Donc okay. Ça illustre après, on s'en doute un peu avec les écarts budgétaires, mais c'est vrai que là, le superbe parcours de Paris et le fait qu'il n'y ait pas une équipe qui est complètement surperformée, plutôt Lyon, parce que Lille était déjà quand même assez élevé par rapport à ses standards et par rapport à son effectif, fait que c'était, à ce niveau-là, c'était encore pire que d'habitude au niveau de l'écart. Mais Florent, donc Raphaël parlait du haut de tableau, mais même au niveau des concurrents au maintien, le total de points, par exemple, est relativement faible. Est-ce que c'est un indicateur de quelque chose, d'une tendance générale sur la saison, ou c'est simplement que cette année, il y a 4-5 équipes qui n'étaient vraiment pas très bonnes?
Il y avait vraiment 4-5 équipes qui étaient en dessous, je pense, cette année. Mais au-delà du maintien, j'ai juste remonté un petit peu le temps et revu les saisons précédentes. Et en fait, il ne faut pas remonter très loin pour retrouver une saison aussi faible derrière le PSG. Alors certes, sur les 2-3 dernières saisons, on a eu plus de spectacles et plus de suspense parce que Monaco était là, Lyon était là, Marseille était là parfois, mais pas tout le temps non plus. Mais si tu remontes à la saison 2015-2016 et que tu regardes le classement final, t'as Paris qui est en tête avec 96 points et ensuite le deuxième, Lyon, est quand même seulement à 65 points, 11 défaites, donc déjà beaucoup moins bien que Lille cette saison. Et t'as un podium avec Lyon 65, Monaco 65, Nice 63 et Lille qui est cinquième avec 60 points. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on a eu cette saison, quoi. Même si Lille et Lyon ont fait un petit peu mieux. Et en bas de tableau, pareil, la 18e place se joue à 39 points. C'est le Stade de Reims qui finit 18e et qui à ce moment-là était relégué directement. Mais ensuite, le 19e et le 20e, on finit à 37 points, c'était le Gazélec, et 18 points, c'était 3. Et ouais. Le premier maintenu termine avec 40 points. Donc,
c'est vrai que cette saison-là, il y avait une Nice qui avait été un peu une éclaircie dans le championnat.
C'est ça. Bah, au final, c'est un petit peu la même histoire cette saison où tu as une ou deux équipes qui ont apporté un peu de fraîcheur et qui ont vraiment réussi leur saison dans le haut du tableau. Après, il y en a d'autres qui sont en milieu de tableau et qu'on attendait plus pour le maintien et qui se sont sauvés tranquillement et qui ont passé une saison plutôt agréable, je trouve, à regarder. Mais c'est vrai que en fait, il suffit pas de remonter si loin que ça pour retrouver une Ligue 1 décevante, on va dire, derrière sa locomotive. Même si c'est vrai que cette année, il y a aussi un truc en plus qui s'est ajouté, c'est le côté fin de cycle et fin de règne à Lyon avec Genesio, à Marseille avec Garcia, et peut-être même à Monaco avec Jardim, parce que c'est vu la fin de saison qu'il a vécu, c'est même pas sûr qu'il reste une saison de plus.
Avant de basculer sur ça, Raphaël, moi il y a quelque chose que je trouve aussi intéressant, mais qui pour moi a un peu contribué aussi à cette fin de saison en roue libre, c'est le fait que bon, déjà les coupes nationales se jouent assez tôt, avec notamment la coupe de la Ligue, en plus sans victoire du PSG, sans même finale du PSG, qui fait que Strasbourg a un peu fini la saison démobilisée une fois qu'il y avait ce succès en coupe, et donc la qualification européenne qui va avec. Rennes a eu aussi la tête tournée vers la Coupe, mais également vers la Ligue Europa, et du coup c'était un peu compliqué de jouer sur tous les tableaux, et donc Paris qui a un peu terminé en roue libre après l'élimination de Ligue des Champions. Donc ça fait plusieurs équipes, au-delà de celles comme Bordeaux qui étaient déjà maintenues, qui ont lancé un nouveau cycle qui a plus ou moins bien fonctionné, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de matchs qui ont perdu de leur enjeu beaucoup plus tôt dans la saison que d'habitude, parce que les équipes ne s'engageaient pas forcément à fond pour des raisons diverses.
Ouais, il y a eu ça. Après, il y a un aspect de la Ligue 1 qui fait que tu as moins de motivation et d'incitation à jouer les 6-7 dernières journées. C'est quand même qu'il y a finalement que 4 places qui te qualifient pour les Coupes d'Europe, en plus, comme dans une saison comme ça où le PSG perd en finale. Donc finalement, t'es 5e ou t'es 9e, tu gagnes quelques millions, t'es content si t'es un peu plus haut, si t'es un club comme Montpellier, comme Nice. Mais si t'es l'OM, si t'es Rennes, si t'es Bordeaux, finalement, être 13e, être 8e, il y a peu de différence dans la sensation que t'as eue de la saison. Il y a même peu de différence en termes de points. On voit que Strasbourg finit à 49 alors qu'ils font une bonne saison. Nîmes finit à 53, Reims finit à 55, Nice à 56. Bon, il n'y a pas d'énorme écart entre les points. Et d'ailleurs, entre les saisons de ces clubs-là, c'est difficile de dire qui de ces clubs-là a fait la meilleure saison. Et c'est vrai que cet aspect-là, ce ventre mou qui est une caractéristique de la Ligue 1 depuis très très longtemps, il est problématique parce que du coup, il t'incite pas à jouer pour des places européennes. Et c'est là que tu dis que peut-être que si ça crée une troisième compétition européenne comme il le souhaite, si la cinquième, sixième, septième place peut-être propose des compétitions et récompense les clubs, peut-être que ça va plus se bagarrer pour ces places-là. Là, Nice, Montpellier, Reims sont à ces places-là parce que Rennes a arrêté de se battre, parce qu'ils étaient fatigués et qu'ils avaient autre chose en tête, parce que Strasbourg, après la Coupe de la Ligue, était satisfait, parce que Bordeaux est dans un projet où ils pensent déjà à la saison prochaine. Donc, c'est que les motivations sont plus du tout les mêmes à partir de la 26e, 28e journée.
Florent, il y a une question de Jérémy BVT 1610 qui rejoint un truc que tu me disais en préparation de l'émission. C'est tout simple, quel est le classement final en expected points, etc. pour pouvoir comparer? Alors, je ne sais pas si je te pose une colle, si tu l'as sous les yeux. Moi, je l'ai. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même très, très serré. Et que tu as une espèce de. C'est même pas un ventre mou, quoi. Il y a énormément d'équipes qui finalement se tiennent. Alors, tu as quelques surperformances et sous-performances qui peuvent faire varier énormément des places au classement. Mais que finalement, par exemple, là, j'ai Guingamp est devant Toulouse et juste derrière Strasbourg en expected points. Alors qu'il y a des variables de plus de 10 points au classement.
Ouais, bah, on va dire que quand tu regardes ce classement en expected points, c'est vrai que de la 4e à la 15e place. Ça se suit, alors certes, évidemment, entre le 4e et le 15e, il y a quand même pas mal d'écart, mais ça se suit en 2-3 points à chaque fois, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'écart d'une place à l'autre. Alors que c'est vrai que devant, bah, t'as Paris qui finit à 86, Lyon à 69, Lille à 67, et derrière, il y a un trou avec Rennes à 59, qui est 4e, le Stade Rennais, sans surprendre sans doute certains, surtout vu leur fin de saison. Mais ensuite, c'est vrai que de Rennes, donc, qui est 4e, jusqu'à Strasbourg, qui est 15e, voire même Guingamp au final, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais c'est vrai que ça se tient, et c'est un petit peu l'histoire de cette Ligue 1 cette saison, c'est qu'il y a un ventre mou assez énorme, Et à l'intérieur de ce ventre mou, les places ont surtout été décidées par des équipes qui ont été capables ou de surperformer ou qui ont sous-performé. On peut par exemple parler, en termes de surperformance, on peut parler de Strasbourg, qui a mis 17 buts de plus que ce que les expected goals prédisaient, annonçaient, ce qui leur permet d'avoir vécu une saison plutôt tranquille. Attention à eux l'année prochaine, parce que c'est exactement ce qui s'était passé avec Dijon. Et on sait malheureusement ce qui s'est passé pour Dijon cette saison, même s'ils peuvent encore se maintenir en dernière minute. Et dans l'autre sens aussi, côté surperformance défensive, t'as Nice qui s'en sort très très bien, parce que justement offensivement, ils étaient par contre très très mauvais. Et heureusement que Benitez leur permet d'avoir encaissé que 35 buts dans la saison, parce que c'est sans doute ce qui leur permet d'être 7e et pas 14, 15 ou voire peut-être 16 sur la fin de saison. Et puis après, en termes de sous-performance, je pense que personne ne fera mieux que Guingamp.
Eh ben, ouais, je regardais Flo justement sur les 5 dernières saisons, parce que c'est les 5 dernières saisons qui sont compilées en explicit goals, et c'est la deuxième équipe la plus malchanceuse, des 5 dernières saisons en Ligue 1. La pire étant Toulouse, il y a quelques années de ça, qui avait failli descendre avec une saison où ils étaient à moins 19 expected points.
C'est la saison avec Duprat, je pense. Parce que sur la première moitié... Parce que sur la première
non,
moitié,
non, ils se maintiennent devant Reims, Sochaux est déjà plus là, donc ils se maintiennent devant Reims et Ajaccio, mais ils avaient pris 15 buts de plus que prévu, et ils en avaient marqué 5 de moins que prévu,
ben là,
et c'est à peu près les mêmes eaux que Guingamp cette année, qui est malchanceux des deux côtés du terrain, peut-être aussi parce que tes deux extrêmes étaient des individualités sur le déclin, et là on en parlera peut-être tout à l'heure.
Raphaël, par rapport donc aux expected goals, assists, points, etc., il y a une double lecture. Il y a un, le fait de se dire que normalement les meilleures équipes doivent produire plus. Donc autant bah, le trio de tête, même si Lyon est devant Lyon expected points, bah, ça, là-dessus c'est fidèle. Et tu peux trouver décevant que Marseille, par exemple, soit derrière Montpellier, Saint-Etienne et Rennes, vu son effectif. Mais en plus, normalement, ces équipes-là, même quand elles font une saison moyenne au niveau des productions offensives et du jeu, ont les individualités, parce qu'elles ont plus de budget, pour compenser. Et du coup, c'est pour ça que bah, globalement, même quand tu produis un peu moins, que ton fond de jeu est un peu moins solide, bah, du coup, tu compenses avec tes individualités et tu évites une chute absolue. Et bon, tu surperformes quand même. Et là, j'ai l'impression qu'en plus, les individualités de pas mal d'équipes n'ont même pas forcément compensé cette espèce de déclin du fond de jeu. Et par exemple, les individualités lyonnaises, je pense, auraient dû permettre à Lyon d'avoir un total de points plus élevé et de titiller un peu plus Lille.
Ouais, sur Lyon, après, c'est peut-être aussi grâce à ces individualités-là, pardon, qu'ils arrivent à quand même à 72 points alors qu'ils font... Ils livrent des performances collectives régulièrement moyennes. Donc c'est peut-être là aussi que leur saison s'est jouée, parce que c'est des joueurs, des vedettes qui sont sur une progression, alors que celles de Marseille, on parlera des contrats plus tard, sont toutes en régression. Et tu peux parler de Balotelli, Payet, Strootman, Luis Gustavo, c'est tous des joueurs âgés, Rami aussi. Donc là-dessus, ça s'est peut-être joué là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu des bons collectifs. On peut parler de Reims, on peut parler de Saint-Étienne, de Montpellier un peu. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, beaucoup qui se sont démarqués, peut-être de Nice un petit peu, Nîmes. Mais il y a eu peu d'équipes qui ont été tirées vers le haut par deux, trois très bons joueurs. Il n'y a pas une saison à la Sochaux avec Boudbouz et...
À part Lille.
Et Marvin Martin, à part Lille, c'est ça, qui a été tiré par PB, par Iconé, mais qui avait déjà quand même d'autres joueurs de qualité et un coach qui avait l'habitude quand même de maximiser des effectifs comme ça, intermédiaires. Mais les autres équipes, il n'y a pas eu un Nice de Puel avec un top joueur, il n'y a pas eu, tu vois, il y a quand même peu de joueurs qui aujourd'hui se sont démarqués et que tu imagines, disons, hors du top 3, top 5, aller rejoindre une de ces écuries-là. C'est-à-dire que tu n'as pas le Ousmane Dembélé de Rennes, tu as peut-être Saliba à Saint-Etienne, mais encore, il va peut-être partir à l'étranger avant d'aller plus loin en Ligue 1.
Là, à Strasbourg.
Ouais, mais tu vois, mais tu vas à Montpellier, tu vas à Nice, tu vas à Reims, tu vas à Nîmes, tu vas à Rennes, Strasbourg un peu, Nantes. Est-ce qu'il y a des joueurs? Tu vas à Bordeaux, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont amenés à jouer à Lyon, à jouer au PSG, à jouer à Marseille, à jouer à Monaco? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Et c'est aussi peut-être la Ligue des Talents n'a pas réussi à se renouveler l'été dernier.
L'un de ces symboles, alors Florent, on en a peut-être d'autres. Pour moi, tu es à la fois du côté de Marseille, Florent Thauvin, et du côté de Monaco, Falcao. Des joueurs, notamment Thauvin, qui, dans mes souvenirs, a tendance à surperformer, en tout cas à mettre des buts qui ne sont pas forcément faciles. Bon, là, il est aussi, il marque aussi plus de buts qu'il ne serait attendu selon le modèle. N'empêche que, il y a quand même une deuxième partie de saison qui est un peu plus difficile de sa part. Falcao, bon, c'était l'un des seuls joueurs monégasques, mais si tu veux, tu te dis, c'est parmi les joueurs les plus cotés de Ligue 1, parmi les mieux payés de leur club, mais même du championnat. Et ils n'ont pas une surperformance totale qui leur permettrait de tirer à eux seuls le club vers le haut en mettant 20-25 buts.
Oui, bah ça c'est un petit peu... À Marseille, il n'y a personne qui a réussi à reprendre la suite de l'excellente saison de Thauvin l'année dernière. À Lyon aussi, hein, Raphaël tout à l'heure parlait de l'OL. L'an dernier, je crois qu'ils doivent être à 15 ou 20 buts de plus marqués que ce qu'annonçait le modèle. Cette année, ils sont en légère sous-performance. Parce que sur la deuxième moitié de saison notamment, les Depay et les Fekir ont plutôt disparu de la circulation. En tout cas, en termes de stats, ils étaient beaucoup moins présents. Et c'est du coup des joueurs un petit peu secondaires, au départ en tout cas, les Dembélé, les Terrier, qui ont dû un petit peu élever leur niveau. Ou alors atteindre le niveau qu'on attendait d'eux en début de saison. Notamment pour Dembélé, et qui ont permis à l'OL d'aller chercher cette troisième place et ce podium. Mais c'est vrai que tant à Marseille qu'à Bordeaux aussi, pour parler d'une équipe que je connais bien, à Bordeaux, tu vois, ça avait démarré très fort avec un ou deux mois de surperformance pour Camano, qui derrière tout le reste de la saison a été assez catastrophique et très loin des standards attendus. Et même dans les autres équipes, même dans les équipes qui étaient censées jouer, on va dire, le milieu de tableau, ou voilà, il n'y a pas eu non plus d'énormes perfs d'un joueur qui va exploser, comme par exemple Toko Ekambi la saison dernière, qui fait une saison, je crois, il termine à 18-19 buts, il me semble, avec Angers, et ça lui permet ensuite de faire son transfert à Villarreal. Et cette année, j'ai beau me passer tous les clubs de deuxième, enfin on va dire de seconde zone en revue, je vois pas de joueur qui ait réussi cette performance sur 38 journées, sur toute une saison, et qui pourrait prétendre, comme le disait Raphaël, à soit viser un des clubs du top 5 français, ou alors partir dans un des trois meilleurs championnats à l'étranger.
Bah le joueur qui un peu sort du lot, c'est Savanier, mais il fait une saison tellement particulière dans une équipe qui mise énormément sur les coups de pied arrêtés. Et c'est un joueur qui a des qualités très prononcées, mais des défauts aussi très prononcés, donc c'est difficile de l'imaginer se projeter et s'installer dans un effectif beaucoup plus ambitieux. Donc ça a été un souci. Je vérifiais pour Toko Ekambi, c'était 17 buts la saison dernière, Flo, avec 5 passes D aussi. Et juste un petit truc sur le maintien, où je parlais du maintien qui là s'était joué à 34 points, à la 18e place à 34 points. C'était le pire total depuis 2010, où Le Mans avait fini avec 32. Boulogne-sur-Mer, que Christophe connaît bien, avait fini avec 31 points, et Grenoble avait fini avec 23. D'ailleurs, ces trois clubs sont passés par le National, où ils sont encore avant d'essayer de remonter. Grenoble a réussi, Boulogne et Le Mans, c'est un peu plus difficile.
Raphaël, j'avais une question.
Pardon.
Juste... Ah bah vas-y.
Non, c'est juste pour finir, puisqu'on parlait pas mal des XG et des joueurs qui ont... Et où je disais qu'il y avait assez peu de joueurs qui avaient pu faire, par exemple, une Toko Ekambi. C'est vrai que quand tu prends ne serait-ce que les 20 premiers XG en valeur absolue, bon, évidemment, t'as Mbappé qui est devant, t'as Pepe, t'as Dembélé qui est troisième, Cavani, Falcao, donc jusqu'ici, il n'y a pas de surprise. Et c'est des joueurs qui sont déjà dans des équipes de haut niveau. Enfin, à part évidemment Pepe qui va être transféré cet été. Mais derrière, tu tombes vite sur Gradel, Andy Delors, et ensuite, tu passes sur la deuxième partie de tableau, t'as Kazri, t'as Cabella, t'as Marcus Thuram, t'as Koulibaly de Nantes, et t'arrives déjà sur Camano, Bauken, Laborde. Tous ces joueurs-là, en fait, c'est des joueurs qui sont de Ligue 1, mais qui sont bien marqués Ligue 1, et soit parfois qui ont déjà échoué ailleurs en plus. Je pense à Gradel qui fait une demi-saison à Bournemouth et qui revient très vite en Ligue 1 derrière. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ces joueurs qui vont se servir de la Ligue 1 comme un tremplin. C'est pas ces joueurs qui sont revenus d'ailleurs déjà et qui sont sur une deuxième partie de carrière où après l'ascension, bah, ils reviennent en Ligue 1 parce qu'ils n'ont pas réussi à faire mieux.
Cabella, c'est pareil aussi, Kazri, ouais. Tous ces joueurs-là, c'est les
parti,
mêmes joueurs.
C'est parti en Angleterre une saison, ça a échoué et puis finalement ça revient en Ligue 1, ça reste performant dans ce championnat, mais il n'y a pas de joueurs dont on peut s'attendre à ce qu'ils utilisent la Ligue 1 comme un tremplin et qui passent à autre chose l'année prochaine, quoi.
À part à Lille,
évidemment.
Raphaël, question de Youssef Besbes. Est-ce que le principal frein à l'amélioration de la Ligue 1, hormis le côté financier, c'est la faiblesse au niveau des directions sportives qui se traduit par l'absence de stratégie à long terme, de mauvais casting d'entraîneurs et d'incohérence de choix sportifs? Et c'est vrai que sur ça, t'as notamment, alors c'est pas, enfin rien ne dit qu'en faisant différemment ça aurait mieux marché, mais le fait de passer de Dalloglio à Comboiré à Dijon par exemple, tu peux te poser des questions, le fait de faire venir Roland Courbis en adjoint ou numéro 1 bis ou voilà, au niveau de camp, enfin il y a plusieurs semi-incohérences où tu te dis, alors c'est toujours plus facile a posteriori, pareil, je pense que le transfert de Nolan Roux, il y a beaucoup plus de gens qui le trouvent négatif maintenant que sur le moment, parce qu'il sortait quand même plutôt de bonnes saisons, et bon, à Guingamp, ça n'a pas fonctionné avec Rodelin, etc. N'empêche qu'il y a deux, trois trucs où tu te dis, enfin, t'as pas l'impression que les clubs français sont les mieux gérés d'Europe, au-delà du fait que c'est pas les plus riches.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça, et quand tu vois les équipes qui ont fait des bonnes saisons, généralement, c'est des clubs qui ont fait des bons choix dans le recrutement. Je regardais justement les transferts de Guingamp. Alors c'est vrai qu'ils perdent Salibur, ils perdent Briand, ils perdent Grenier. Ils perdent ces trois joueurs-là, ils les remplacent par Ronny Rodelin, Nolan Roux. Et après, c'est des joueurs qui viennent de Ligue 2, donc Traoré, Niakate. Traoré, c'est un retour de prêt, Fofana. Des clubs des joueurs qui ne donnaient pas de garantie et même qui ne sont pas d'énormes promesses du football français. Donc là, ça a été difficile pour eux alors qu'ils essayaient de passer un cap. C'est pareil avec Dijon, quand tu regardes le recrutement. Alors, Johan Gourcuff, ça a été un échec. Jules Keïta, qui a fait un gros match de la saison et qui, derrière, a un peu disparu. Runarsson, qui fait une saison assez moyenne. Il me semble qu'il a perdu sa place 2-3 fois et qu'il est revenu 2-3 fois dans la hiérarchie de l'effectif. Oui. Donc, tu fais le bilan des clubs qui sont en bas. C'est des clubs qui ont recruté des joueurs qui ne donnaient pas de garantie. Là où c'est un peu dommage, c'est peut-être pour Caen, qui a essayé des coups avec Kawi, qui avait été pas mal à 3. Avec Onyangé, qui avait déjà un peu prouvé en Ligue 1, mais c'est pareil, c'est comme ce que disait Flo, c'est on récupère des joueurs qui sont partis ailleurs, qui se sont pas imposés, qui reviennent en Ligue 1 à leur niveau à peu près. Et voilà, et là, pour le coup, les clubs qui ont réussi, les Reims, les Nîmes, c'est ceux qui ont un peu innové. Tu fais le bilan, les Nice, qui sont allés chercher des joueurs un peu différents. Toulouse a essayé, finalement, à laisser tomber. Puis après, t'as des clubs qui ont essayé sans vraiment essayer, c'est-à-dire que Amiens prend Ganso, mais le prend pour en faire quoi, ils savent pas. Et pareil avec Dijon sur Gourcuff finalement.
Alors Florent, on va passer à notre, je veux dire le grand thème, en tout cas l'angle principal de ce podcast, c'est notre over-under. Alors c'est simple, c'est comme le cut des paris. Là, on va faire un over-under sur le classement l'an prochain. C'est-à-dire que voilà, Rennes était 10e, est-ce que l'an prochain ils seront mieux classés ou moins bien classés? On va faire les 20 clubs, alors ça sera très rapide, sinon le podcast durera 8 heures. Et puis si vous avez des choses à ajouter, vous le ferez. Et puis sinon, vous justifiez en 3-4 mots.
On va faire les 17 qui sont sûrs de rester en Ligue 1.
Oui, c'est ça. Ouais. Parce que bon, là, les promus, tout dépendra de ce qui. Déjà, on ne connaît pas le 3e promu ou le 3e. Enfin, la dernière équipe qui sera maintenue en Ligue 1. Et puis, voilà, il y a encore d'incertitude. C'était assez mal formulé. Là. C'est la fin de saison, ça devient difficile. Donc, Raphaël, on va faire par le haut, par le PSG l'an prochain.
Bah, écoute,
stable.
Bah, c'est difficile d'imaginer quoi que ce soit d'autre, à part si Lyon fait un incroyable bout en avant avec son nouveau staff et parvient à garder assez de joueurs. Mais c'est aussi le problème de la Ligue 1, même si c'est pas là forcément la faute du PSG. Eux, ils se renforcent pour aller jouer la Ligue des Champions. Tu peux pas leur demander de faire en sorte que les autres clubs soient au même niveau qu'eux. Mais c'est vrai qu'il y a un tel écart entre le projet du PSG et le projet des autres, qu'à part une énorme saison sur performance qu'on avait vue avec Monaco, avec Jardim il y a 3 ans de ça, deux ans de ça, ou une de Lyon peut-être, comme il y a 3-4 ans, où ils avaient un peu rivalisé jusqu'à la fin, et finalement le PSG s'était détaché sur le... Ça va finir premier, et j'ai envie de dire, ça va finir premier malgré tous les problèmes qui existent dans ce club, à tous les étages du club. Ça montre bien aussi l'écart entre l'effectif et juste les autres, parce que c'est pas forcément un écart de compétences et de direction et de qualité de l'encadrement sportif, parce qu'ils ont pas beaucoup de choses que les autres clubs ont leur en virer.
Puis finalement, Paris a quand même marqué 91 points en ayant fini la saison en roue libre. Oui. Ce qui n'est pas beaucoup moins que... Ça doit être 7 de moins que City, 6 de moins que Liverpool. Alors la compétition n'est pas aussi relevée. Mais disons, la manière dont tu termines laisse un goût un peu d'inachevé. Mais ça reste un total très honorable. Alors qu'ils ne sauvent pas certains échecs par ailleurs. Mais qui montrent quand même que plus de 90 points pour n'importe quelle équipe de Ligue 1, c'est quand même assez difficile à... Difficile à aller chercher. Florent, est-ce que tu es sur la même ligne?
Ouais, on peut se demander.
Pas le plus controversé.
On peut se demander s'ils vont faire over-under 91 points la saison prochaine.
Et ouais.
J'imagine que ça dépendra beaucoup de leur parcours en Ligue des Champions, parce que si en effet ils déconnectent comme ils ont déconnecté après l'élimination face à Manchester United, alors qu'à ce moment-là de la saison, on se demandait même s'ils allaient pas taper les 100 points, voire s'ils allaient pas. Je sais plus s'ils avaient déjà perdu un match à ce moment-là ou pas.
Et avant leur saison. Défaite contre Manchester, on les voyait aller très très loin en Ligue des Champions aussi. Hein.
C'est... Donc je pense que ça se décidera à ce niveau-là. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui doivent se décider peut-être dans les prochaines heures. J'ai vu qu'Henrique était convoqué à Doha, etc. Donc si ça se trouve, côté coulisses, la saison n'est pas tout à fait terminée encore. Donc on va voir déjà comment ça va se passer à ce niveau-là.
Alors, deuxième de Ligue 1, Raphaël, Lille. Quel futur pour Lille ?
En dessous parce que le départ de Pepe, je l'imagine quand même très difficilement remplacé, aussi bien sa surperformance que tout simplement ses pures qualités. J'ai vu que là ils sont sur un joueur de Watford qui joue en Belgique, je crois, ou qui a été prêté en Belgique. Je sais pas si c'est ça, tu confirmeras, Christophe, si toi tu as des infos, puisque tu es plus près d'eux que moi. Mais même en termes de points, là, c'est... Ils peuvent rivaliser en termes de points, mais je pense que les autres, les Lyon, les Marseille, feront forcément mieux, Monaco aussi. Donc c'est plus là-dessus aussi que je les vois descendre un petit peu. Il y aura la Ligue des Champions qui va les occuper également, au moins pendant les phases de poule, et peut-être la Ligue Europa s'ils arrivent à finir au moins troisième. Et ils ont un effectif qui n'est pas non plus ultra long en termes de qualité, de joueurs référencés à ce niveau, ou même de joueurs qui peuvent d'un coup passer à ce niveau-là. Donc je les vois mal aligner la même saison que la saison dernière. C'est la première fois que Galtier, je crois, va jouer la Ligue des Champions. Il me semble qu'il ne l'avait pas joué avec Saint-Etienne.
Ouais, c'est sa première.
Donc beaucoup de nouveautés pour le club qui est plus habitué à ces joutes-là, voir si Campos va rester. Donc il y a beaucoup de variables et de facteurs qui font que je les vois mal quand même se stabiliser.
Pour le recrutement, alors ça parle de plusieurs joueurs turcs à différents postes, notamment pour remplacer Mendes au milieu. C'est des joueurs que j'avoue je ne connais pas, qui sont assez jeunes, donc pas très référencés. Le plus connu du lot, ça serait Luke Bakio, dont on avait parlé il y a quelques semaines, qui joue à Düsseldorf, mais qui est plutôt un numéro 9. En tout cas, cette année, je le voyais en numéro 9. Alors, vu sa vitesse, je pense qu'il peut-être jouer sur le côté, mais c'est la piste la plus chaude et c'est le plus référencé, mais c'est peut-être une fausse piste pour justement faire d'autres transferts. En tout cas, il n'ira a priori pas chercher trop de joueurs. Pour remplacer Mendes au milieu, oui, ça sera un milieu assez référencé a priori. Autant pour les autres, ça peut peut-être être des joueurs très jeunes qui vont exploser la saison prochaine. Florent, pour Lille.
Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Raphaël.
Sous, parce que c'est quand même aussi l'intérêt du truc.
Non, oui, bien sûr. Oui, non, under, oui. Je pense, ça va être quand même compliqué pour eux parce que, comme il l'a dit, ils vont perdre leurs meilleurs joueurs, peut-être même leurs deux meilleurs joueurs, puisque pour moi c'était Mendes qui était numéro 2. C'est deux gros éléments qu'il va falloir d'abord remplacer, intégrer les nouveaux. Il y aura plus de matchs à jouer cette saison avec la Ligue des Champions. Enfin bref, ça fait quand même beaucoup d'arguments qui laissent penser que ça va être très compliqué pour Lille de rester à cette deuxième place. Après, est-ce que c'est under 3, 4, 5 ou est-ce que c'est under juste simplement le premier tiers du classement ? Là, c'est un peu plus compliqué à dire et ça dépendra beaucoup de la capacité des concurrents à se reconstruire, voire certains comme Saint-Etienne à se maintenir à ce niveau-là.
Je vais enchaîner avec toi, du coup, comme ça c'est Raphaël qui pourra dire rien à rajouter sur Lyon.
Ben, Lyon, vu l'état de Marseille, vu l'état de Monaco, qui vont partir forcément beaucoup plus loin que l'OL la saison prochaine, j'ai envie de dire over. Maintenant, il y a quand même pas mal d'incertitudes sur l'effectif, sur qui va partir. Alors Fekir, ça a l'air d'être sûr. Je crois qu'Olas a annoncé qu'en plus de Fekir, il y aurait deux autres départs. Reste à savoir lesquels, évidemment, même si on peut imaginer qu'un joueur comme Dombélé sera un des premiers à quitter le club cet été. Et ensuite, côté arrivée, Juninho, Silvinho, alors certes, ça fait rêver les Lyonnais, le retour de Juninho qui était attendu quand même depuis pas mal d'années maintenant. Maintenant, il n'a jamais été à ce poste, il ne l'a jamais connu même au Brésil, il me semble. Donc c'est un nouveau saut dans l'inconnu. Jusqu'ici, Olas ne prenait que des entraîneurs, on va dire, de deuxième plan, et entraîneurs français, de deuxième plan, minimum de deuxième plan. Là, il a pris un entraîneur inexpérimenté, mais étranger. J'ai beaucoup de mal à me dire que ça va suffire pour redresser tout le monde. Après, du côté de Lyon, évidemment, c'est la fête parce que ça met fin à 3 ans de Genesio et tout le monde est content à ce niveau-là, ou quasiment tout le monde, j'ai l'impression. Maintenant, ce tandem-là, pour l'instant, on est obligé d'attendre et de voir comment ça va se passer. Après, c'est sûr qu'en termes d'effectifs, aujourd'hui, Lyon a le deuxième meilleur effectif du championnat d'assez loin. Et rien que ça, ça leur offre quand même un bon temps d'avance par rapport aux équipes que j'ai citées tout à l'heure.
Raphaël.
Mais il y a un point sur lequel ils pourront peut-être battre les autres s'ils arrivent à pas se tirer dans les pattes, se tirer dans le pied, c'est sur le recrutement. Maurice bosse très bien depuis des années. Si tu imagines que Juninho et Silvinho, ça peut aussi amener une aura auprès de la filière brésilienne et pourquoi pas compléter le bon recrutement sur le territoire français de Maurice avec d'autres bons joueurs venus du Brésil, là, tu peux imaginer une association plutôt pas mal. Donc sur le recrutement, ils ont de quoi faire un bon projet s'ils arrivent à tous travailler ensemble, contrairement à ce qui se passe par exemple au PSG. Après, sur le côté qu'évoquait vraiment de terrain, le côté qu'évoquait Florent, il y a quand même un point sur lequel on peut être optimiste, et on se le disait en préparant le podcast, c'est que quand tu regardes l'effectif de Lyon, t'as l'impression qu'individuellement, il y en a quand même pas mal qui ont fait une bonne saison ou qui ont progressé. Tu peux penser à Dembélé, tu peux penser à Terrier, à Ward dans certains matchs, Ndombé dans certains matchs, Denayer qui a un bon recrutement, Fernand Mendy qui a de la qualité. Alors après avoir, il y en a peut-être 2-3 de cette liste-là qui vont partir. Léo Dubois qui est plutôt une bonne recrue, Lopez qui continue de faire des bonnes saisons. Donc là-dessus, ils ont quand même des garanties, sachant qu'ils ont des petits jeunes comme Solé, comme Pinter, comme Cherki qui peuvent apporter, que ce soit à court ou à moyen terme, Cacré aussi, à voir s'ils arriveront à les faire jouer, contrairement à ce qu'a fait Genizo cette saison. Mais sur l'effectif, ils ont une telle avance, même sur Lille, je trouve, que j'ai quand même de l'optimisme pour ce club-là. J'imagine quand même qu'ils seront... Enfin, si pour Lyon et pour cet effectif-là, faire une bonne saison, c'est au moins être à 2 points par match. Là, ils finissent à 72 en 38, c'est quand même moyen. Ils devraient viser les 80, et à partir de là, tu peux quand même les imaginer deuxième. Parce que la deuxième place de Ligue 1 se joue assez rarement au-delà de 76-78. Donc là-dessus, vu toutes ces données-là, je pense qu'ils iront assez bien. Après, le seul truc qui peut arriver catastrophe, c'est un rejet complet de Silvinho ou de Juninho, parce que le gars arrive et dit « Moi, c'était comme ça à mon époque, c'était Lyon, c'était ça. On était en quart de finale de Ligue des Champions, on gagnait tous les titres, on va faire comme à mon époque. » Et que les jeunes disent « Mais ok, mais on s'en fout en fait. C'était Juninho, mais au finalement, on s'en fout. » Et ça, je pense pas que ça arrivera parce que Lyon c'est une culture particulière, mais c'est arrivé dans d'autres sports avec des gars qui arrivent, des anciens d'un club qui arrivent et qui se disent mais moi je sais faire ça donc je vais vous montrer comment on va le faire, et des nouvelles générations qui sont pas du tout réceptives. Donc ça c'est la crainte que j'ai, même si je pense qu'elle n'arrivera pas.
Ah, et puis Silvinho, on a zéro garantie. Alors apparemment étudiant du jeu dès qu'il était joueur, bon, on connaît sa carrière, on sait qu'il a fréquenté de très grands entraîneurs, donc là-dessus.
Il a fréquenté les mêmes que Thierry Henry. c'est vrai en plus.
Ça casse tout le truc, mais c'est un peu là où je voulais en venir, c'est-à-dire que Félix Maguette était numéro 10 et finalement c'est l'entraîneur le plus tyrannique et le moins romantique et pas spécialement offensif du monde. Alors parfois il y a des similitudes et des profils qui se continuent en tant qu'entraîneur par rapport à ce qu'était le joueur. Mais par exemple Paco Remes, c'était absolument pas. Enfin lui en tant qu'entraîneur veut voir ce qu'il était incapable de faire en tant que joueur et ce qu'il n'avait pas le droit de faire avec ses entraîneurs qui étaient plutôt défensifs. Donc parfois il y a des défenseurs qui deviennent des entraîneurs très offensifs et inversement. Bon là c'était un latéral brésilien mais quasiment un ailier là-dessus, c'est assez révélateur parce qu'il était très offensif. Maintenant. Si peut-être qu'au bout de 4-5 semaines, ça va être un peu comme Casanova à Toulouse sur le côté, on peut pas jouer, on arrête de jouer quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas les éléments pour. A priori, à Lyon, il a un peu plus de matériel, mais entre les grandes ambitions du début de saison et ce qui est fait par la suite, ça serait pas le premier entraîneur. Même Jardim, à ses débuts, était assez offensif et il avait fini par être beaucoup plus conservateur. Donc, on sera obligé de juger sur pièce puisqu'il a pas. Enfin, pour l'instant, c'est un adjoint et on ne sait jamais vraiment ce que valent les adjoints, puisque certains font tout et d'autres ne font pas grand-chose. Justement, en parlant d'adjoint, la transition est tout trouvée. Florent, pour parler de Saint-Etienne et de Jean-Louis Gasset qui va quitter le club, lui qui a passé les trois quarts de sa carrière en tant qu'adjoint dans l'ombre et qui a réussi une fois dans la lumière. Déjà, tu me diras over-under, mais sa succession va, je pense, beaucoup conditionner. Va beaucoup conditionner la réponse parce que pour moi c'est quand même l'artisan majeur de la très bonne saison de Saint-Etienne.
Ah oui, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui en termes de succession ça parle a priori d'un tandem printemps sablé, c'est-à-dire ces deux adjoints en fait. Et c'est vrai qu'on peut se poser quelques questions parce que quelqu'un qui était adjoint justement passé en tant que numéro 1, c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne tout le temps.
Donc après, ça, c'est... printemps l'a déjà été avec un peu plus de succès que Sablé.
Avec Bastia, ouais, il a déjà été. Mais à côté de ça, Sainté a peut-être un avantage, c'est que quand tu vois aujourd'hui l'effectif, à part peut-être Saliba, qui pourrait intéresser pas mal de clubs dès cet été, il n'y a pas beaucoup de joueurs, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient amenés à partir en fait. Parce que c'est des joueurs qui sont revenus en France récemment, en tout cas en janvier dernier. On peut penser à Mvila et Cabella. Et c'est vrai qu'autour d'eux, il n'y a pas beaucoup de joueurs où tu te dis, bah, cet été, par exemple, cet été, Kasri va repartir. J'en suis pas forcément convaincu à ce niveau-là. Et où est-ce qu'il repartirait, sachant que bah, il finit quatrième, il jouera la Coupe d'Europe à Saint-Étienne l'année prochaine. Et j'ai du mal à l'imaginer aller à Lille ou à Lyon, quoi, par exemple, pour parler des deux clubs au-dessus. Donc, ils vont avoir, je pense, un effectif assez stable la saison prochaine, qui peut leur permettre bah, de repartir. De repartir avec déjà quelques automatismes quand d'autres équipes vont beaucoup changer. Mais c'est vrai qu'au niveau du staff, comment ça va se passer, qui va être choisi, c'est là que la question va se poser. Maintenant, je vais dire under, je pense, parce qu'il faudra aussi gérer la Coupe d'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, surtout sur la première moitié de saison, avec la phase de poule, etc. Même si Saint-Etienne, je crois, va être qualifié direct pour cette phase de poule. Maintenant... sur la suite, le under, je pense que ça sera pas beaucoup plus bas. C'est-à-dire que s'ils sont pas quatrième l'année prochaine, je les vois être 6, 7, 8 maxi, mais rester dans le premier tiers du classement.
Non, mais le under dépend plus des autres équipes que d'eux-mêmes, en fait. J'ai l'impression
ça dépend plus
de Marseille, Monaco, pourquoi pas un Nice qui recrute bien, Montpellier qui continue de progresser, qu'un Saint-Etienne qui recule, parce que c'est vrai que vu que l'effectif va peu bouger, on peut-être un départ de Debuchy, Saliba. Si c'est printemps, les autres vont rester. Après, voir si c'est pas aussi une décompression après Gassé, humainement. Est-ce que les mecs vont pas se mettre dans un confort ah bah c'est bon, on a eu printemps, c'était l'adjoint de Gassé, on est bien et tout ça, mais il n'y a plus la même... je sais pas si c'est la compétence ou la même motivation ou la même énergie à emmener les mecs plus haut, mais à voir. C'est pas le même boulot que de sauver une équipe de la relégation en Ligue 1 que de l'amener 3e, 4e, donc plus la Coupe d'Europe en même temps. Voir ces deux choses-là, mais c'est vrai que si ça revient à la normale pour les autres équipes, ils devraient être à peu près dans les mêmes eaux. Je pense qu'en termes de points, ils seront à peu près là, mais est-ce que ce sera 66 points pour la 4e ou pour la 6e place? À voir.
Donc du coup, Raphaël, ton over-under?
Bah, sur un under, plutôt.
Sur une descente, d'accord. Je sais pas d'ailleurs à la fin si nos trucs seront logiques ou si on aura mis tellement d'équipes vers le bas qu'en fait, il y aura 3 15e. Et aucun troisième. Alors, cinquième, tiens, Raphaël, on va rester avec toi pour Marseille, qui a terminé donc avec 61 points.
Ouais, alors c'est un... Je crois qu'on va avoir un over-under dans ce over-under, pardon.
Absolument. On va
préparer un petit. Mais là, franchement, je sais pas, parce que c'est un club qui a tellement d'interrogations et de trucs à régler cet été, aussi bien en termes de coach, que de direction sportive, que de recrutement, que d'effectifs à dégraisser, à renouveler, que... Je les y. Ça peut aller dans les deux sens, je sais pas du tout. Villas-Boas peut se faire licencier après 2 mois, il peut faire une très bonne saison, tu sais pas comment, il peut. Mais je partirais quand même sur un. Je partirais sur un under, malheureusement. Pas en termes de points, mais en termes de place. Je pense que Lille, Paris, Lyon, Saint-Étienne, Monaco, Nice, Montpellier, ça va être à la bagarre. Rennes, Bordeaux, ça va essayer de remonter. Et Marseille, il y a quand même peu de choses qui m'indiquent qu'ils seront meilleurs la saison prochaine que cette saison. Ils n'ont pas brillé dans leur recrutement depuis 2-3 ans. Ils n'ont pas brillé sur l'évolution des joueurs et le travail individuel avec les joueurs. En tout cas, ça ne se voit pas. Donc, je pars plutôt sur Under et je laisserai Florent évoquer l'effectif parce que ça va rejoindre ce que je te disais tout à l'heure sur le Over-Under. Mais il y a un gros problème de construction d'effectifs à Marseille où des choix précipités, consécutifs, te mettent dans une situation financière... vraiment catastrophique.
Voilà, Florent, ce qu'évoquait Raphaël, c'est le nombre de contrats à la con que l'OM va donner cet été. Formulation trouvée par Raphaël. Donc, quel est ton chiffre, le cut?
La difficulté, c'est que je pense que l'OM ne va pas pouvoir donner beaucoup de contrats à la con cet été, parce qu'ils en ont déjà donné beaucoup trop les saisons précédentes. Donc, il va déjà falloir éponger ces contrats qui vont traîner 2 ans pour Rami, 3 ans, voire 4 ans, je crois, pour Strootman encore, je crois que c'est 2023. Ouais. Donc, je suis pas sûr que l'OM soit en mesure de faire beaucoup de mouvements cet été, en fait. Sachant que McCourt a déjà beaucoup dépensé depuis qu'il est arrivé et qu'il a racheté le club. Donc, je pense que l'OM va pas forcément pouvoir donner énormément de contrats à la con cet été. Alors, ils vont...
Moi, je dirais un, quand même.
Ouais, il y en aura peut-être un, parce qu'il y aura peut-être une ou deux ventes qui vont leur permettre de débloquer un peu de fonds pour recruter. Mais là, on est sur une équipe qui va d'abord devoir éponger, laisser passer le temps. Alors, c'est dommage, il n'y a pas de draft parce qu'il pourrait tanker et se reconstruire par la draft. Mais façon Brooklyn qui avait lâché d'énormes contrats et qui a mis plusieurs années à revenir pour accentuer le parallèle NBA, mais c'est vrai que là, j'ai beaucoup de mal à imaginer l'OM être très actif et ne pas subir ce qui va se passer cet été sur le marché des transferts. Et ce qui est un peu inquiétant pour eux, c'est qu'ils ont quand même pas mal de joueurs vieillissants et que l'effectif gagnerait à être renouvelé cet été dans ses grandes largeurs. Et le problème, c'est que je pense qu'ils n'auront pas les moyens de le faire. Maintenant, reste la question du coach. Est-ce que Villas-Boas, qui débarque à Marseille, peut être capable de relancer tous ces joueurs-là dont on connaît quand même, dont on a déjà vu les qualités, et les relancer pour un dernier run, une dernière saison, en jouant à fond sur la motivation. On est tous derrière moi et puis on va essayer d'aller le plus haut possible. Est-ce qu'il est capable de réveiller cette équipe-là pour au moins une saison, en espérant ensuite que cette saison-là, il réussisse à accrocher un podium et ensuite à profiter de la manne de la Ligue des Champions, justement pour renouveler l'effectif l'été suivant. Mais c'est, je pense, une saison à qui tout double pour l'OM, celle qui vient. Et ce qui tout double va vraiment se jouer sur l'impact qu'aura Villas-Boas sur cet effectif.
Et donc, juste du coup, sur le classement final, avant que Raphaël enchaîne.
Je me dis que j'ai beaucoup de mal à savoir. Du coup, j'ai joué stable, c'est-à-dire une cinquième place. Mais tout va dépendre de l'effet du nouveau coach, je pense, parce que l'effectif ne pourra pas trop bouger, malheureusement pour eux, à mon avis.
Juste un petit point sur les contrats, parce que j'étais en train de regarder pendant que Flo parlait. Ils ont une bonne série de joueurs dans les 30 joueurs les mieux payés de Ligue 1. Le problème, c'est que c'est tous des joueurs qui sont vieillissants et sur le déclin. Donc Rami est à 3,6 millions par an jusqu'en 2021. Mandanda est à 4 millions, il lui reste une saison. Là, Abdennour va sortir va être en fin de contrat, donc ça va leur faire du bien. Mais Amavi, qui est ton deuxième choix au poste de latéral, est à 1,7 million jusqu'en 2021. Sakai, lui, est à 1,9 million. Bounassar est à 1,9 million. Gustavo est à 6 millions par an jusqu'en 2021. Strootman est à 6 millions par an jusqu'en 2023. Certic est à 1,5 million jusqu'en 2020. Ocampos, 1,6 million. Il lui reste une saison. Payet, 6 millions jusqu'en 2021. Donc quand il aura 34 ans. 35 ans, je sais plus quel âge il a, Payet aujourd'hui, 32, 33. Enfin, c'est le John Wall du foot français là sur le contrat. Radonjić est à 1,8 million jusqu'en 2023. Bon, il a fait une première saison très compliquée. Mitroglou était à 3,6 jusqu'en 2021. Germain, 3,2 jusqu'en 2021. Et je crois que le pire contrat, et il faudra l'expliquer un jour, c'est que Clinton NG est à 2,2 jusqu'en 2020. Je sais pas comment c'est possible. Il est mieux payé que Sanson, il est mieux payé que Lopez. Il est mieux payé que beaucoup de joueurs de l'effectif Marseille qui sont plus importants. Donc, sachant que tu vas sans doute devoir augmenter des joueurs comme Camara, comme Maxime Lopez, si tu veux les voir rester et qu'ils ne partent pas en fin de contrat rapidement. Donc, ils sont vraiment dans une situation très compliquée et c'est pas le centre de formation qui va les sauver, parce qu'il y a quand même peu de jeunes qui semblent promis à une place importante en équipe première parmi les 17 et les 19. Donc, je crois même qu'ils ont des résultats assez moyens dans cette catégorie-là. Après, c'est les résultats font pas les joueurs, mais à ce niveau-là, quand même, t'es censé être au-dessus des autres centres si tu travailles bien. Et là, pour le coup, Marseille, quand même, enfin, les choix répétés à court terme leur coûtent beaucoup maintenant parce qu'ils ont donné des contrats à très longue durée et un peu inconsidérés pendant pas mal de temps.
Montpellier, sixième, Florent, qu'est-ce que tu vois pour la suite ?
C'est assez compliqué à juger. Je pense que sixième, c'est peut-être leur plafond par rapport aux moyens qu'ils ont à l'heure actuelle. Après, ils ont aussi, je pense, le même avantage que Saint-Etienne. Même si, par exemple, un joueur comme Mollet va peut-être intéresser quelques équipes, il est arrivé que cet été, il me semble. Et du coup, je me dis que, par exemple, le trio d'attaque qui leur a permis de réaliser une belle saison avec Mollet, Delors et Laborde, ce sont trois joueurs, je pense, qu'ils peuvent garder la saison prochaine. Donc ça, déjà, ça va leur offrir une belle base. En plus, eux ne changent pas de coach, puisque Der Zakarian, j'imagine, qui va rester au moins une saison de plus. Donc je pense que c'est une équipe qui peut être très stable cet été, à part peut-être le gardien, Benjamin Lecomte, qui, à mon avis, pour lui, c'est peut-être le bon moment de viser un peu plus haut. Pourquoi pas Marseille ?
Il n'y a pas beaucoup de place non plus. Hein.
Pourquoi pas Marseille si la place de Mandanda se libère, ce qui est une possibilité. Mais non, je pense que ça peut être... je vais rester sur le stable aussi. Je pense que Montpellier peut se maintenir dans cette zone-là du classement. Après, reste la question de la défense avec Hilton qui est en patron et qui a prolongé d'une année de plus et qui ira sur ses 42 ans l'année prochaine, ce qui est quand même assez impressionnant de longévité. Mais non, Montpellier, c'est une affaire qui marche. J'ai du mal à les imaginer franchir un palier l'année prochaine et viser un peu plus haut. Mais je pense qu'ils vont avoir une stabilité dans l'effectif qui peut leur permettre de se maintenir au même niveau, même si, allez, je vais dire un petit under au cas où il y ait un Bordeaux ou un Monaco qui reviennent aussi dans cette zone du classement.
Trouver l'intrus. Raphaël, sur Montpellier.
Non, mais je suis du même avis que Florent. Alors, il y a la variable Savanier qui peut... Déjà, est-ce qu'il va venir? Et deuxièmement, est-ce qu'il peut ramener autant de points sur coup de pied arrêté qu'il en a ramené à Nîmes? Nîmes qui, quand même, en termes d'expected points, je crois, aurait dû être beaucoup plus bas. Un peu plus bas, finalement. Pas tant que ça, mais un peu plus bas quand même. Donc ça peut leur faire gagner des points en Ligue 1. Mais c'est vrai que sur les autres aspects, il n'y a pas tellement de changements. La conjugaison d'un départ de Lecomte et d'un de plus pour Hilton peut peut-être leur coûter cher défensivement. Mais en même temps, il n'y a pas tellement d'équipes qui peuvent leur passer devant, quand je regarde derrière. Du Rennes, du Bordeaux, du Nantes, si ça travaille peut-être bien. Mais je vais dire un peu comme Flo, un under, mais c'est un petit under. Parce que je pense que ça se maintiendra sans grand souci. Ils sont trop bons sur les individualités offensives pour vraiment connaître la difficulté.
On enchaîne sur Nice, 7e, l'une des équipes les plus étranges de la saison,
oui.
puisqu'elle termine quand même dans la première partie de tableau, et pas si loin des places théoriquement européennes, qui cette année ne l'ont pas été parce que Paris n'a pas gagné les coupes, mais voilà, les années précédentes, Nice aurait été dans la course à l'Europe jusqu'aux dernières journées, et tout ça, Raphaël, en ayant marqué 30 buts,
oui,
sur un seul de plus que Caen et moins que Dijon.
Mais ils n'ont pris que 35 buts, voilà. Autant que Paris, et 2 de plus que Lille. Donc, c'est étonnant parce qu'on n'imaginait pas ça quand Vieira est arrivé. C'était le jeu de position, c'était cette philosophie inspirée du Guardiola et de ce que font les clubs associés à Manchester City. Alors, il n'a pas forcément des joueurs très très bons offensivement pour faire des différences définitives. Il y a des bons joueurs sur les côtés, des bons dribbleurs. Il n'a pas des mecs qui vont concrétiser tout ça par beaucoup de buts. Donc, ça a été un jeu de position assez sécurisant, et c'est aussi pour ça qu'ils sont bons défensivement. D'ailleurs, ça a dû faire du bien à Dante, qui a un peu ressuscité cette saison. Donc c'est difficile à savoir, parce que sur le plan des départs, si tu perds un Atal, quand même, ça peut être très très difficile à remplacer. Mais le reste de l'effectif n'a pas performé au point de séduire beaucoup de clubs, quoi. Saint-Maximin, par exemple, est-ce qu'un club qui était intéressé l'été dernier par Saint-Maximin va revenir cet été en se disant « Ah oui, finalement, c'est lui qu'on veut. » Je suis pas sûr. Et pareil pour d'autres joueurs qui ont fait des bonnes saisons, mais pas au point de performer fabuleusement. Je pense quand même que ça va être un under, parce que leur saison sur le vive défense sur la défense comme ça, j'ai du mal à y croire vu les individualités. Je pense que Dante, ça va commencer à tirer. Et c'est pareil, le jeu de position comme ça, un peu trop sécurisant, sans vraiment beaucoup d'occasions, je suis pas sûr que ça tienne longtemps. Est-ce que Vieira, à un moment, va intéresser d'autres clubs? Est-ce que ça va jouer? Est-ce que les Saint-Maximin, les Attal, les Cypriens vont vouloir aller ailleurs, je sais pas, mais je les vois un peu en dessous.
Mais justement, pour Saint-Maximin, j'avais vu 2-3 rumeurs, donc là j'ai fait un petit Google Actu venant de l'étranger, et je vois que bon, là ça change tous les jours, hein, bien sûr, c'est pas la fiabilité est discutable, mais il y a du Newcastle, du Everton, du Crystal Palace intéressé, ça me semble à peu près ça me semble à peu près cohérent, mais du coup la question c'est pas est-ce qu'il y a des clubs intéressés, c'est est-ce que lui est intéressé pour partir là-bas. Sachant qu'il n'a même pas été appelé en espoir pour briller là-dessus, je pense que lui a des rêves qui pour l'instant qu'il pourra pas accomplir parce qu'il n'a pas fait suffisamment pour convaincre les clubs type Arsenal, etc. Je pense que lui voudrait atteindre.
C'est typiquement le mec qui peut finir à Crystal Palace et jouer 400 minutes sur la saison.
Et revenir à Marseille l'année suivante.
Oui. Ouais.
Florent, justement, pour enchaîner sur Nice.
Non, mais leur problème, alors, Raphaël a oublié de citer Benitez, qui pourrait intéresser des clubs, parce qu'il fait une excellente saison dans les buts de Nice, et il est pour beaucoup dans le fait que Nice ait quand même pris, je crois, une quinzaine de buts de moins que ce qu'annonçaient les expected goals. En fait, ils ont surperformé en défense de manière équivalente à leur sous-performance en attaque. Donc, au final, ça s'équilibre un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a l'avenir de Benitez qui peut décider de pas mal de choses. Après, c'est vrai que Vieira a construit une équipe... très solide défensivement malgré tout, au-delà du cas de Benitez qui les a sauvés quand même. Mais c'est vrai que c'est compliqué de voir. Là, je regardais au sein de l'équipe, qui est-ce qu'il y avait des joueurs qui avaient surperformé offensivement. À part Atal, il n'y en a pas, tout simplement. S'il y a Christophe Jallet, mais bon, qui a mis un but pour 0,5 XG. Donc
c'est ça le problème, c'est qui va marquer des buts dans cet effectif.
C'est ça, le problème. Et pour eux, l'important, la saison prochaine, ça va être... de réussir à trouver un neuf qui serait capable de faire oublier. Alors à la fois évidemment Balotelli qui a fait 6 mois absolument horribles avant de partir à Marseille, mais surtout Alassane Plea qui avait gagné en efficacité dans sa dernière saison avant de partir à Gladbach. Est-ce qu'ils vont avoir un joueur qui va être capable de franchir ce palier-là et faire une saison à la Plea pour avoir un bon transfert l'été suivant ou pas? Je pense que c'est ce qui peut décider pas mal de choses pour eux la saison prochaine. Après, ils ont un nouvel organigramme avec un nouveau président et nouveau directeur sportif qui connaît très bien Patrick Vieira, puisque c'est Grimandi, je crois, qui est arrivé en mars-avril, j'ai l'impression. Donc on va déjà voir ce que ce nouveau trio à la tête du sportif va apporter quel réseau est-ce qu'il va être capable d'activer pour pouvoir renforcer l'équipe l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, leur saison en cours, où ils terminent à la 7e place avec 30 buts marqués, 35 encaissés, j'ai du mal à les imaginer réussir à taper plus haut s'ils restent, comme tu le disais Raphaël, dans cette optique-là. Après, c'est un petit peu comme Montpellier, si on dit under, je suis pas sûr que ce soit beaucoup, beaucoup plus bas, mais je les imagine pas être candidats à l'Europe l'année prochaine. En tout cas, pour l'instant, après, il faudra voir ce qui se passera au Mercato. Mais ils risquent quand même de perdre les joueurs les plus déséquilibrants qu'ils avaient, peut-être Saint-Maximin, mais peut-être Attal surtout. Et déjà qu'ils ont besoin de trouver un nouvel avant-centre au minimum. Si en plus il faut aussi changer les joueurs de percussion sur les ailes, ça fait quand même beaucoup de choses pour renforcer une attaque qui était jusqu'ici une des pires de Ligue 1.
Après, on n'est pas à l'abri d'une explosion d'Ignatius Gadago.
Pourquoi pas?
On n'est pas à l'abri d'une attaque nucléaire non plus. Mais bon, Nice,
ça arrivera avant, je pense.
Il y a une variable qui, a priori, ça part pas comme ça, mais il y a Jim Ratcliffe, je crois que c'est l'homme le plus riche de Grande-Bretagne, qui a, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui a racheté l'équipe Sky et qui voulait investir à Nice. Alors oui, si c'est le cas, ça change totalement les perspectives financières. Là, pour l'instant, c'est notre légendaire chien qui, pour l'instant, est président. président du conseil de surveillance, ce nom nous fait beaucoup rire, mais c'est sûr que si la surface financière de Nice change, ça pourrait changer les perspectives. On reprend notre sérieux, Reims 8e, Raphaël, l'une des très bonnes surprises de cette saison.
Oui, Reims qui... Après, c'est un peu la même question pour Nice, mais sans le côté désert offensif. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont réussir à garder les quelques joueurs déséquilibrants qu'ils avaient? C'est pas non plus une équipe qui comptait sur beaucoup de joueurs pour faire des différences. Belle saison d'Oudin, belle saison de Cafaro, et puis après c'est des joueurs comme Chavaria, comme Souk qui ont marqué quelques buts. Mais
n'oublie,
c'est vrai
pas,
que sur...
n'oublie pas Zenelli.
Oui, sinon, Zenelli. Yes, bien sûr qui a fait une belle saison, mais je pensais vraiment aux mecs qui sont décisifs régulièrement là pour le coup. Si tu perds Oudin, après ils ont montré qu'ils étaient capables de recruter, de faire des bons coups. Donc c'est vrai que c'est le point positif pour. Pour la saison prochaine, ils savent qu'ils ont des réseaux intéressants, ils savent où aller chercher des bons joueurs. Donc là-dessus, plus le maintien du coach. Après, on parlait de ventre mou tout à l'heure avec la Ligue 1 qui est très homogène, de la 5e, 6e place à la 14e, 15e. C'est une équipe, si tu me dis qu'elle joue le maintien la saison prochaine jusqu'à la 37e journée, je ne suis pas surpris non plus. Et je ne sais pas si Flo sera d'accord, mais on a connu des équipes comme ça qui font des saisons où ils sont bien, ils sont en première partie de tableau, et pendant 3 ans derrière, ça joue le maintien. C'est très difficile de situer cette équipe dans la hiérarchie française comme ça va l'être avec d'autres équipes. J'aurais tendance à dire under quand même parce que je les vois pas refaire une telle réussite en termes de recrutement. Même les meilleurs pôles de recrutement font pas non plus autant de succès qu'ils l'ont eu cette saison. Et puis est-ce qu'ils vont perdre, comment ils vont les perdre, comment ils vont les remplacer. C'est aussi des équipes qui ont profité de la baisse de clubs comme Rennes, Bordeaux, Strasbourg en cours de saison, Monaco, Marseille, Montpellier qui vont peut-être se maintenir à leur place ou revenir tout en haut dans la saison prochaine.
Florent, je me souviens, il y a quelques semaines, tu avais pensé que Reims serait européen.
Ouais. Et ils se sont effondrés juste après. Donc,
finalement, ils se sont effondrés. Est-ce que tu penses que cette tendance à l'effondrement va continuer la saison prochaine ou alors est-ce que Reims peut prolonger, ce qui serait du coup plus un effet de surprise, mais une vraie installation parmi les bonnes équipes de Ligue 1?
Non, je pense que, comme le pensait Raphaël, je ne serais pas surpris que ça joue le maintien peut-être jusqu'au bout l'année prochaine. Après il y a des variables, la variable du mercato qui peut aussi changer ça, mais je pense que Reims, Je crois même que c'est Guillon, juste après la dernière journée, qui était interviewé après la victoire face au PSG, justement, la belle victoire pour finir la saison à domicile. Mais je pense que même lui disait que la saison suivante allait être beaucoup plus compliquée, etc. Il s'attendait à quelque chose de beaucoup plus difficile. Et je me dis que, en effet, Reims, qui termine 8e là, sera plus proche au mieux de la 12e, 13e, 14e place l'année prochaine. Que plus haut, parce qu'il n'y aura plus forcément l'effet de surprise. Et puis en plus, c'est vrai que cette saison-là, ils ont terminé en roue libre. Ils avaient démarré la saison de manière... C'était très compliqué, c'était très défensif, et ils s'étaient rassurés, je pense, en arrivant en Ligue 1, en étant d'abord solides sur leur base, avant d'être un peu plus expansifs, un peu plus spectaculaires pendant l'hiver, on va dire. Ils avaient vécu une très bonne série, je crois, entre janvier et mars, avant de totalement chuter. Donc je me dis qu'en plus ils ont vécu plus de périodes compliquées cette saison que de périodes positives, et du coup l'année prochaine je pense que eux leur objectif ça va être de vraiment pas s'enflammer et de rester sur leur objectif numéro 1 qui sera le maintien, et je pense qu'il sera peut-être un peu plus compliqué à obtenir, même si par rapport aux expected points et expected goals ils sont beaucoup moins dans la surperformance que d'autres équipes dont on parlera après. Et qui auront peut-être encore plus de mal qu'eux à maintenir le niveau de performance qu'ils ont atteint cette saison.
Raphaël, j'entendais ta douce voix.
Non, mais je suis d'accord avec Florent. Peut-être un petit point, c'est savoir, une grosse variable aussi, c'est savoir à quel niveau auront les trois promus de Ligue 2. Ouais. Parce que le Metz et Brest ont quand même fait des vraies belles saisons en Ligue 2, et tu peux imaginer rapidement un effectif de niveau Ligue 1 pour ces clubs-là. Et que ce soit Caen à la limite, je pense que Dijon ou Lens, je pense que Lens par exemple, vu la ferveur populaire, le budget qu'ils ont, ils peuvent aussi se construire un bon budget de Ligue 1 la saison prochaine. Et puis Montagnier est quand même habitué à ces choses-là, donc s'il est conservé, ça devrait pas être un club ridicule. Si c'est Dijon, ce sera peut-être plus le cas. Mais voilà, donc ces trois-là aussi vont poser problème à ces clubs qui, comme Reims, comme Nîmes, qui sont montés, qui se sont vite installés dans la première partie de tableau, savoir si ça va pas être aussi une question de 2-3 points entre ces clubs-là la saison prochaine, parce que comme on l'a vu, la Ligue 1, tu peux monter en Ligue 1 et jouer l'Europe dès la saison suivante.
Donc on est sur un under tous les deux.
Oui, un under, oui.
Nîmes 9e, si j'enchaîne avec toi Raphaël, puisque tu as écrit des papiers sur Nîmes pour l'équipe, donc du coup tu as un peu en tête le jeu de cette équipe.
Ouais, équipe étrange, parce que équipe à la fois qui a un jeu assez contrôlé, qui est pas forcément très expansif, qui attaque avec 3, 4, 5 joueurs maximum, et qui pourtant marque des buts et en encaisse pas mal aussi. Donc c'est une équipe particulière, ils ont fini plutôt la saison correctement, parce qu'à un moment ils étaient dans une grosse surperformance en cours de saison, et finalement le bilan entre le nombre de points qu'ils ont eu et le nombre de points qu'ils auraient dû avoir, il n'y a pas un énorme écart, hein, c'est juste 3 points d'écart. Après, il y a la variable Savanier et le coup de pied arrêté qui ont été ultra importants pour Nîmes. Est-ce que tu auras le même frappeur? Est-ce qu'il sera encore là? Est-ce que tu vas arriver à rééditer cette surprise des saisons de mecs comme Renaud Ripart, par exemple? Donc, c'est difficile à dire, Nîmes. On arrive dans un point où là, en même temps, on donne tellement de under que si ça continue, comme tu le disais, il va y avoir 14, 15e et seulement deux équipes en haut de tableau. Mais je pars sur un under aussi pour ce côté quand même défense friable où ça prend quand même pas mal de buts. Et c'est ce qu'on avait vu avec Dijon les saisons précédentes, et une fois que la surperformance offensive, qui là est quand même prononcée cette saison, se termine, et elle peut se terminer encore plus gravement si t'as plus ces coups de pied arrêtés là, tu peux finir. Je suis plus inquiet pour eux que pour Reims finalement. Même si offensivement, ils sont peut-être un peu mieux munis, avec des joueurs comme Bouanga, des joueurs comme Tube, mais c'est pareil, est-ce que ces joueurs-là, ils vont pas être allés recruter par du Rennes, par du Strasbourg, par des clubs un peu plus fortunés, un peu comme le Bahoken qui était parti de Strasbourg, qui part à Angers. C'est pas forcément un club qui vise plus haut, mais qui peut peut-être te donner un meilleur salaire. Donc un petit peu en dessous. Après, leur point positif, c'est qu'ils ont quand même des attaquants de niveau Ligue 1 et qui peuvent faire des différences un peu tout seuls, comme Tube, comme Bouanga.
Après, c'est vrai que pour ce qui peut fonctionner sur notre format et par rapport à ce que vous dites, c'est si Monaco est troisième l'an dernier, bah, tout le monde va descendre d'un rang si le champ,
oui,
si le
reste, oui, du
classement ne bouge pas. Donc là-dessus, ça permettrait de retomber sur nos pieds. Florent, quelque chose à rajouter sur Nîmes et ton pari?
Non, je vais rester sur un under aussi. Après, il y a aussi une question qui se pose, c'est sur ce qu'ils auront comme effectif, tout simplement la saison prochaine. Parce que Bon, Umut Bozok est loin d'avoir fait une grande saison en Ligue 1 après avoir été meilleur buteur de Ligue 2, je crois, l'année d'avant, lorsque Nîmes monte. Mais a priori, lui, il serait poussé vers la sortie en ce moment. En tout cas, il serait ouvert à un départ. Ils ont Mawasa côté gauche qui était prêté, qui a fait toute la saison quasiment. Ils ont Bernardoni dans les buts, dont on ne connaît pas l'avenir, même si ça sera certainement pas à Bordeaux. Est-ce qu'il va rester à Nîmes l'été prochain? C'est vraiment pas sûr, parce que je crois que Bordeaux a pour ambition de le vendre. Et est-ce que Nîmes aura les moyens de l'acheter? Ça, c'est, voilà, ça on ne sait pas. Et après, c'est vrai que quand tu vois l'effectif, c'est un effectif qui a beaucoup marché, comme le disait Raphaël, autour des coups de pierre et de Savanier.
Et des aussi frappes de loin de Bobichon, complètement.
Certaines frappes de loin. Il met 7 buts, Bobichon, pour 1,72 XG.
Ouais, c'est incroyable.
Donc, on est pas mal en termes de surperf. Mais il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Et surtout, tu parlais d'individualité comme Bouanga, comme Tube. On n'est pas non plus sur des individualités qui peuvent porter une équipe qui n'aurait plus, par exemple, les coups de pierre arrêtés ou des choses comme ça pour faire des différences. Ils ont quand même mis 15 buts cette saison sur coups de pierre arrêtés, sans compter les pénaltys. Même 17 buts, puisque j'ai oublié les coups francs directs. Sachant qu'ils en ont mis 36 sur phase de jeu, enfin dans le jeu, pardon. J'ai du mal à les imaginer rester dans le milieu de tableau. Je pense qu'un petit peu comme Reims, ça sera un peu plus bas. Maintenant, est-ce que ça sera beaucoup plus bas ou pas, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand tu prends leur effectif, tu peux te poser quelques questions et te demander si on n'était pas sur une dernière saison de surperformance et la prochaine, comme souvent de toute façon pour les clubs promus, la deuxième saison est toujours beaucoup plus compliquée.
Alors qu'on arrive à l'heure de jeu avec la 10e équipe de Ligue 1 l'an dernier, et donc l'une des meilleures au niveau des statistiques avancées, c'est Rennes, Florent.
Oui, bah le Stade Rennais, le problème c'est qu'il y a énormément d'incertitudes sur l'avenir de Stéphane, j'ai l'impression, que ça se passe pas très bien avec son président. Il y a eu quelques mots qui ont été échangés par voie de presse. C'est vrai que Rennes, c'est d'ailleurs un petit peu surprenant, mais c'est une des équipes. Ils terminent quatrième en expected points. Certes, il n'y a pas beaucoup d'écart avec les suivants, mais c'est eux qui sont en tête du ventre mou. Alors, certes, en début de saison, ils ont aussi payé un petit peu la méforme de Koubek.
Oui, parce qu'ils étaient déjà très hauts en fin de saison, mais avant même que Stéphane arrive, ils étaient mal payés. Ouais.
Donc, il y a pas mal de questions aussi qui les entourent. Il y a l'avenir de Ben Arfa qui, a priori, va s'inscrire hors de Rennes. Mais est-ce qu'ils vont aussi conserver tous leurs, enfin, les autres joueurs? Parce que pour moi, la saison de Ben Arfa n'était pas forcément en corrélation avec les résultats de Rennes. Il y a des joueurs que je trouve beaucoup plus importants que lui dans cette équipe. Maintenant, ils terminent 10e, et c'est vrai que quand tu prends simplement leurs expected points, tu te dis qu'ils peuvent viser plus haut avec Stéphane et avec une préparation complète, etc.
Après, il y aura un effectif assez jeune aussi, hein, Flo.
Un effectif assez jeune. Et alors après, il y aura la Coupe d'Europe. J'imagine qu'ils auront un tour à passer, j'ai l'impression, si Saint-Etienne est qualifié directement. Eux doivent avoir un tour à passer, Strasbourg 2. Mais en fait, ça va beaucoup dépendre de l'avenir de Stéphane. Maintenant, l'avantage pour le Stade Rennais, c'est que j'ai l'impression que les spots pour être coach en Ligue 1 sont quasiment tous pris déjà pour la saison prochaine. Et j'ai du mal à imaginer Stéphane décider de quitter Rennes alors qu'il n'y a pas d'autres spots à aller occuper, quoi.
Et il lui reste de toute façon un an de contrat. Donc limite qu'il la fasse et qu'ensuite il parte l'été prochain si ça se libère quelque part.
Par exemple.
Mais bon, je le vois mal aller direct. Tu vois, il y avait Lyon avant qui aurait pu être une possibilité, mais là, aller dans le Bourbier de Marseille, par exemple, ça me paraît être une mauvaise idée. Donc en effet, il n'y a pas grand-chose. Et l'étranger ne le connaît pas non plus assez bien pour venir le chercher.
C'est ça. Donc si tu ajoutes tout ça, tu te dis qu'il va rester. Et du coup, tu te dis que dans la continuité, s'ils ne perdent pas trop de joueurs importants, mais c'est un peu pareil, je pense que l'effectif ne devrait pas être amené à trop bouger. Peut-être une grosse vente avec Sarr, et encore, j'en suis pas forcément très convaincu. Mais je pense qu'ils ont largement l'effectif et les moyens pour taper un peu plus haut que cette 10e place, donc je vais dire over.
Raphaël.
Bah, du même avis, si Stéphane reste, je pense que ce sera over. Si ça change de coach à nouveau, ça va être. Est-ce que les joueurs vont être mobilisés? Parce qu'ils ont quand même vécu ce parcours européen et en Coupe nationale avec Stéphane. Donc ils sont quand même liés quelque part à ce mec-là, et je pense que ça fonctionne avec lui parce qu'il les a amenés un peu plus haut
qu'il n'était avant. Donc s'il reste, je pense qu'ils iront un peu plus haut. Pas forcément jouer la 4e, 5e place, mais en tout cas dans le top 10. Surtout s'ils arrivent à soit à remettre leur gardien à l'endroit, soit à trouver un gardien un peu plus fiable que Koubek ne l'était cette saison, même si on ne se lassera jamais de sa course et de sa dégaine. Mais en tout cas, ouais, un peu plus haut. Et puis de toute façon, vu les autres équipes qui étaient devant et qui risquent de descendre, je pense que même en faisant peu de progrès, ils arriveront à être classés plus haut qu'ils ne l'étaient cette saison.
On enchaîne, Raphaël, avec l'autre vainqueur de Coupe Nationale, Strasbourg, qui était 11e la saison dernière, cette saison.
Ouais, Strasbourg qui est une autre équipe qui fait une saison bizarre. C'est un peu le Nice offensif, j'ai l'impression, Florent. C'est-à-dire que grosse surperformance offensive qui...
Très grosse, oui.
Qui masque quand même un bilan qui aurait pu être plus triste que ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas la première saison pour Strasbourg qui sont en surperformance dans un des deux domaines. En tout cas, que ça leur permet de mieux fonctionner. Bon, c'était pas le cas la saison dernière apparemment. Écoute, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais en fait non. Finalement, ils étaient pas en surperformance. Mais cette saison, ils l'ont été. Alors c'est peut-être aussi grâce à une année de plus à fonctionner avec Loré qui fait que les joueurs savent mieux ce qu'ils font.
Après, il y a eu quelques joueurs qui ont été capables de marquer de loin.
Ouais.
Et le deuxième point, c'est aussi les centres de Lala, qui est un excellent centreur et qui du coup, les centres, que ce soit de 30 ou 40 mètres, à 40 mètres du but adverse, ça donne généralement des actions qui ont un faible XG, mais si c'est bien travaillé et qu'à la réception, t'as de bons joueurs de tête, et là on peut penser à Jorque, voire même à Thomasson, qui en a mis quelques-uns, il me semble... but de la tête cette saison, ça peut aussi un petit peu changer la donne à ce niveau-là et expliquer une partie de la surperformance. Mais c'est vrai que celle-là est assez monstrueuse quand même.
Oui, peut-être que leur jeu très dépendant des centres aussi fait que les Specific Goals traduisent pas vraiment leur style, ou en tout cas pas en tout cas péjorativement, mais c'est vrai que c'est un club dans une situation assez particulière. Ils ont quand même un bel effectif, quand tu regardes, ils ont fait des bons recrutements, ils ont des jeunes qui sortent du centre qui sont intéressants, ils arrivent à trouver des bons joueurs en Ligue 2, à aller en chercher des bons. Ils font revenir un gars comme Lamine Koné, encore un gars qui part en Formalie, qui revient, qui a été pas mal. Dommage que le prêt de Grand Cyr ait pas marché, parce que c'était une idée intéressante d'aller le récupérer à Monaco où ça fonctionnait pas. Mais on n'a pas dit stable depuis longtemps, et je pense que c'est une équipe qui va rester stable, parce que ça travaille bien, ils ont un bel effectif, il n'y a pas de raison que ça se casse la gueule. Est-ce que le parcours en Coupe d'Europe peut les déranger au point de les mettre vraiment tout en bas du classement? Je pense pas. Ils ont le côté aussi de la méno qui fait que quand même, quand t'es poussé par des supporters à domicile, ça te fait une différence avec pas mal de clubs de Ligue 1 qui ont pas cette ferveur. Et après, on va parler de clubs comme ça, comme Toulouse, comme Amiens par exemple. Mais je les vois stables. Alors peut-être qu'ils seront plus proches de leur respective goals et que du coup ils seront 2-3 places en dessous au classement, mais je vois pas une chute de leur côté ni une progression folle.
Florent, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça?
Ouais, moi je vais partir sur l'hypothèse qu'évoquait Raph à la fin, c'est-à-dire qu'ils vont être un peu plus bas la saison prochaine, parce que notamment ils vont avoir un petit marathon à disputer, et je le connais bien parce que j'ai vu Bordeaux le disputer l'été dernier, puisque la saison démarre dès le mois de juillet, avec il y a 6 matchs à jouer. Pour pouvoir atteindre les... Enfin, si tu réussis à te qualifier, évidemment.
Après, parfois, vous perdez dès les premiers, donc c'est plus simple.
C'est ça, évidemment.
Peut-être
qu'ils feront ça pour mieux s'en tirer ensuite en championnat. Mais non, je pense que déjà, vivre ça, ça va être un gros changement. Ensuite, il y a le probable départ de Lala, qui, on parlait beaucoup de Savanier en tant que passeur, mais Lala aussi, elle aura débloqué pas mal de situations parce qu'il était... tireur de coups de pied arrêté, centreur, je l'ai évoqué tout à l'heure, et aussi buteur, puisque je crois qu'il tirait les pénaltys. Ça fait quand même beaucoup de choses pour un seul joueur, qui plus est latéral droit. Donc il va falloir le remplacer, et remplacer même globalement son apport offensif, que ce soit dans le jeu ou sur coups de pied arrêté, comme je le disais. Donc ça fait quand même un changement de calendrier qui risque de peser pas mal dans les jambes, peut-être pas forcément directement sur le début de saison, mais quand ils vont rentrer au mois de octobre, novembre, l'automne va être assez dur à passer, je pense, pour Strasbourg. Et ensuite, la perte de Lala, qu'il va falloir remplacer dans tous les compartiments du jeu que j'ai évoqué. Donc, en ajoutant tout ça, je pense que ça va être un under, certes pas beaucoup plus bas, mais si là, ils terminent 11e, ils seront 12, 13, peut-être 14. Mais après, c'est vrai que j'imagine mal une catastrophe industrielle comme l'a vécu Dijon, et qui les amènerait dans les 3 dernières places.
Florent, on va continuer sur la thématique incertitude au niveau du coach, avec Nantes qui a terminé 12e, où Vaïd est en conflit plus ou moins larvé avec Kita depuis plusieurs semaines, mais c'est ni le premier, ni probablement le dernier. coup, quand il y a un point commun comme ça, il faut peut-être se poser les bonnes questions, même si je pense qu'on a depuis longtemps les réponses. Nantes 12e, donc qui a fini assez fort, avec, je crois, sur les trois derniers mois, Nantes doit avoir le 5 ou 6e bilan de Ligue 1. Est-ce que tu penses que, justement, ça fait partie des tendances qui peuvent se confirmer la saison prochaine ou pas ?
Non, Nantes, de toute façon, je vais dire under, simplement parce que ils vont de toute façon traverser un été compliqué comme tous les étés avec Kita. Les recrutements vont être faits sans forcément de ligne directrice. Et tout à l'heure, on avait quand même évoqué l'importance de la direction sportive et des choix de recrutement des équipes qui réussissent ou qui se ratent dans leur saison. Et je pense que vu qu'il y a quand même de plus en plus d'équipes qui travaillent, qui ont l'air de recruter intelligemment, là, tu vois, par exemple, on a enchaîné Reims, Nîmes et Strasbourg, qui sont des équipes qui se sont assez peu trompées à ce niveau-là. Je pense que Nantes est moins bien lotie que ces formations-là, et que du coup, à un moment donné, ça devrait finir par être payé et être sanctionné. Là, ils s'en sont bien sortis, ils se sont très bien relevés sur la deuxième moitié de saison. Mais j'ai du mal à imaginer Nantes, en tout cas, faire mieux la saison suivante, sachant qu'a priori, ils devraient travailler aussi mal que d'habitude cet été, avec l'équité à leur tête. Donc, du coup, je vais dire under, même si peut-être que en prenant un coach pendant 6 mois et en se ratant totalement, peut-être que le coach qui arrivera les 6 mois suivants leur permettra de revenir à une 12e place. Mais j'ai l'impression que c'est un schéma qui est amené à se répéter tous les ans à Nantes, à moins de tomber sur le bon coach qui va les maintenir, qui va faire une Ranieri par exemple, et qui sur un an va leur permettre d'être performant de manière régulière. Mais sinon, j'ai du mal à imaginer un autre scénario pour Nantes que la saison qu'on vient de vivre.
Raphaël, que je ne sens pas très inspiré, est-ce que tu as quand même un petit pronostic sur le classement final de Nantes la saison prochaine ?
J'en ai absolument aucune idée. C'est une équipe que je trouve impossible à qualifier, à résumer. Est-ce que valide par qui sera-t-il remplacé ? Quand, comment, pourquoi, on ne sait pas. Qui va arriver, qui va partir dans... C'est un recrutement quand même où tu comprends pas comment les joueurs arrivent et par quel réseau. Donc franchement, c'est un club très particulier. Je pense que sans Ilodis, il aurait joué le maintien jusqu'à tard dans la saison. Cardozo, ça a pas du tout marché. Et je pense que je sais même pas qui choisit les joueurs dans ce club. Donc je pense que c'est un club qui est chaque année au bord de se casser la gueule, mais ça se voit pas parce qu'ils arrivent à s'en sortir par les joueurs. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit enfin la saison où tu les vois en difficulté jusqu'au bout, par exemple. Donc je dirais under.
Ça marche. Bon, de toute façon, notre épisode est déjà très très long, donc on n'est pas obligé non plus de développer pendant 1000 ans. Est-ce que tu as plus de choses à dire sur Angers, qui a terminé 13e ? Alors, je ne sais pas si c'est un préjugé ou autre, mais j'ai l'impression qu'Angers termine 13e tous les ans.
C'est ça.
Bah, depuis, je crois que c'est une des deux premières saisons où ils étaient montés. Ils avaient fait un petit parcours.
Ils étaient deuxième à mi-saison, je crois.
Ouais, c'est ça, ils avaient fait un super début. Bah, c'est quand l'époque où on avait découvert Schakendoy en Ligue 1. Là, Angers, je crois qu'il est un peu en dessous ses expected points, qui fait une bonne saison en stats avancées et qu'il a un peu moins en stats classiques. C'est pareil, c'est un effectif qui bougera à la marge, peut-être. Qui a fait une saison au point de partir ? Flavien T. Peut-être. Donc, mais c'est vrai que les autres joueurs, comme Arena Adelaide, qui a montré des choses prometteuses au milieu de terrain, ça devrait rester. Baoken, je pense que ça devrait rester, et des Capel, des Thomas, des Mangani, ça fait longtemps que c'est au club et je pense que ça va rester. La difficulté, ça peut être un peu le vieillissement de ces joueurs-là, de Pavlovic aussi, de Manso, donc tous ces joueurs-là, peut-être du gardien aussi. Donc voilà, ces choses-là peuvent amener plus bas, mais vu comment ça travaille de manière stable et bien, et Moulin, je crois, a encore été prolongé là, jusqu'en 2022,
il me semble. Oui, c'est ça.
Donc je les vois stable au-dessus, un truc entre les deux, parce qu'on a dit de clubs au-dessus qui risqueraient de descendre un peu. Je pense que Angers va être un peu plus haut. Ils devraient peut-être trouver une deuxième source de but à part Baoken, parce que les saisons précédentes, ils avaient toujours un, voire deux mecs qui pouvaient marquer pas mal de buts. Là, Baoken est à 11. Pour 9 expected goals, c'est pas exceptionnel. Donc, Cambis était quand même plus fort la saison passée, et puis les saisons d'avant, je crois qu'ils avaient quand même aussi trouvé des gars capables de marquer. Il y avait Diédiou qui est parti en Angleterre, il y avait Ndoye qui marquait des buts, Mangani qui était capable de décisif. Donc voilà, s'ils arrivent à recruter ce deuxième joueur qui va t'apporter pas mal de buts, si René Dalit peut-être devient, ça pourra peut-être aller au-dessus, mais je vais dire stable du coup, parce que je ne sais pas s'ils vont le trouver, Christophe.
Sachant que Reine-Adélaïde fait partie des gens qui sont aussi annoncés à droite à gauche, alors ça me paraît moins certain que T, mais je sais que par exemple les deux sont en contact plus ou moins proche avec le LOSC qui est allé au renseignement.
Ah.
Donc c'est-à-dire que si un club comme Lille va au renseignement pour Reine-Adélaïde, il n'est peut-être pas le seul.
Ah, c'est si assez rare que tu sois seul. Si la machine indestructible le dit, je le crois.
Florent, oui. Sur Angers.
Non, ben, je vais jouer stable. Parce que de toute façon, tu disais, j'ai l'impression qu'ils sont 13e depuis qu'ils sont en Ligue 1. Après leur première saison, ils finissent à la 9e place, pardon, grâce à leur première moitié de saison où ils étaient 2e. Ils ont fini 14e, 12e et 13e, je crois. Donc, sur les trois suivantes, en termes de moyenne, on est quand même on est en plein dedans. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons pour que cela change la saison prochaine. Donc oui, je vais rester sur Angers stable. J'ai pas besoin de développer. Je pense que Raphaël a déjà bien résumé les choses.
De toute façon, on va parler 15 minutes de Bordeaux. Il faut laisser un peu de temps à Bordeaux.
C'est ça, Bordeaux 14e. Florent, vas-y. Raphaël, je pense que tu n'auras
rien. Non, mais là, je laisse le chemin ouvert à Florent.
Non, mais Bordeaux, ça va être... je vais dire over, je vais être optimiste. Maintenant...
si vous faites under, vous descendez de toute façon.
Oui, c'est ça. Et déjà, en plus, les expected goals iraient plus sur le under qu'autre chose. Mais bon, on est sur un club qui a changé de coach, de philosophie au printemps. Et puis, on va voir ce qui va se passer avec le mercato. Il y a le over-under, combien de mouvements cet été, qui risque d'être assez... assez marquant. Après, voilà, nouvelle philosophie de jeu qui est faite, a priori, pour avoir une équipe protagoniste et non plus passive. Donc ça devrait déjà changer pas mal de choses dans l'approche des matchs. Maintenant, de toute façon, tout sera décidé par le mercato et la qualité des joueurs qui seront amenés à Paulo Sousa pour pouvoir ou non développer son projet de jeu. Mais après, c'est vrai qu'en termes de performance sur ce qui a été proposé cette saison, il n'y a pas grand chose à retenir et à tirer de positif. Et il n'y a plus qu'à croire en les paroles de Sousa et puis on verra la saison prochaine. Mais je vais dire over parce que de toute façon, comme tu le disais, si c'est under, ça risque d'être absolument horrible et d'être un petit peu équivalent à ce qu'a vécu Lille pour sa première saison sous Lopez, quoi.
Moi, j'ai un over-under à te demander, Flo. C'est quelle proportion des arrivées va être faite pour la commission et pas pour la qualité du joueur.
Ouais, bah, ça, je ne sais pas. Déjà, je ne peux pas me prononcer, mais par contre...
Je pense que tu as un avis, mais que tu ne veux pas le donner.
Non, j'ai même pas d'avis, mais par contre, je vois quand même qu'ils ont, sur leur premier transfert, et ça me fait un peu peur, c'est Mécher qui a signé en étant en fin de contrat à Rennes, qui est déjà venu passer sa visite médicale, etc. à Bordeaux, et Mécher qui a, je crois, 30 ans ou 32, je ne sais plus, et qui a signé un contrat quand même assez long. Et du coup, ça me rappelle un petit peu les contrats, même si c'est sans doute pas la même échelle, mais les contrats qu'a pu faire signer l'OM. Donc s'il commence par celui-là en tant que premier contrat, c'est quand même un petit peu inquiétant. Maintenant, on verra ce qui va se passer ensuite. Mais non, de toute façon, j'attends le mercato. On aura largement le temps d'en reparler la saison prochaine.
C'est vrai que le over-under, ça aurait dû être sur le nombre de joueurs en fin de contrat qui vont être signés, parce que c'est le... Apparemment, c'est le créneau du club.
Là, il y en a il y a Mécher qui est déjà arrivé. Il y en a deux qui sont en fin de contrat, je crois, qui ont été évoqués. Benito, le Suisse, et Henriksen, je crois, le Norvégien de Hull City, qui est aussi évoqué, même si je crois qu'il a prolongé au dernier moment. Enfin bref, oui, c'est vrai que là, les joueurs en fin de contrat, ça devrait être leur priorité. Et normalement, ils devraient en signer deux ou trois de plus d'ici peut-être la mi-juin.
Raphaël, tu peux même répondre à tes propres questions sur les commissions.
non, mais je vais dire over pour le classement, parce que j'ai vu quand même des matchs de Bordeaux, notamment celui contre Nîmes. Vous avez proposé de très belles choses, notamment un but sublime, il faut le dire, au bout d'une action super bien construite, et je pense comme Sousa en rêvait. Bon, elle n'est pas arrivée souvent parce que il y a des joueurs qui au milieu de terrain ne font pas les bons choix, ne se retournent pas au bon moment. Et je pense que ça a déjà assez énervé Flo, donc je vais arrêter d'en parler. Mais s'ils arrivent à trouver ces un ou deux joueurs qui au milieu peuvent te transformer l'équipe et aller de l'avant quand tu arrives à trouver ce joueur libre entre les lignes, là ça va être une équipe qui va quand même chambouler pas mal de clubs en Ligue 1, parce que peu d'équipes, savent attaquer comme ça, ou même essayent d'attaquer comme ça. Donc je veux dire over juste pour la différence stylistique et esthétique qui fait que ça peut surprendre pas mal de clubs en Ligue 1 et que quand même vu l'effectif ils vont quand même je pense réussir à remonter et surtout arriver à se créer des occasions parce que c'était le gros souci là. Je regarde leur expected goals, ils sont à 37
C'est à peu près comme Dijon, c'est moins que Guingamp. Ils ont des chiffres pas très loin de Guingamp, Bordeaux, en fait. Ils ont vécu une saison un peu plus chanceuse que Guingamp, heureusement, mais sinon, il y a quand même pas mal de similarités dans les chiffres avancés. Donc j'espère que Souza va établir un projet de jeu assez fort pour gommer toutes ses faiblesses.
Là, on passe sur vraiment les tout derniers, les équipes les moins sexy. Amiens, 15e, Raphaël.
15e Amiens, bah écoute, c'est déjà pas mal qu'ils finissent 15e. Alors là, je ne sais pas, j'ai cru comprendre que Pélissier pouvait arrêter ou quitter le club. Il avait l'air de faire ses adieux lors du dernier match d'Amiens.
Il a dit qu'en gros, j'ai l'impression qu'il n'était pas prêt à rempiler pour une saison du même genre à se battre pour le maintien. Donc,
oui. Les recrutements de Ganso et d'Eric Peters ne l'ont pas convaincu.
Bah, Ganso, il n'en voulait pas. Donc,
Oui, mais en même temps, vu comme tu joues et avec qui tu joues, c'est vrai que foutre Ganso au milieu de tout ça, je ne comprends pas bien l'utilité. Mais bon, lui, il n'a pas dû comprendre non plus, Ganso. Je vais dire en dessous, parce qu'en équipe Philippe Pons, ils ont fini 17e. S'ils ne renforcent pas l'effectif, si en plus ça change de coach, bon, ça va être très compliqué pour eux, mais je les vois vraiment en dessous et jouer le maintien toute la saison, parce que je pense que des clubs comme Metz, Brest ou Valence pourraient même être meilleurs que la saison prochaine.
Florent.
Ouais, là même, surtout s'ils perdent Pélissier qui les a maintenus quand même pendant deux saisons, on sait pas trop comment il a réussi à faire ça, vu les joueurs qui lui ont été proposés, etc. Et en plus, comme il le disait, les équipes qui montent, je pense, seront armées au moins financièrement pour faire au moins aussi bien qu'eux, et peut-être en plus avoir un peu plus de moyens qu'eux pour récupérer des joueurs pendant l'été. Donc ouais, ça risque d'être une saison plutôt compliquée pour Amiens, surtout en plus s'ils perdent Pélissier, qui est quand même le mec qui les a amenés jusque-là et maintenu en Ligue 1.
Avant-dernière équipe, alors bon courage pour trouver quelque chose à dire là aussi, Toulouse 16e, Florent. Toulouse qui a... Mais Casanova est un amoureux du jeu, le problème c'est qu'il n'arrive jamais à mettre ses idées en place très longtemps et ça marche jamais très très bien.
Et le jeu n'est pas amoureux de Casanova apparemment.
Et ça finit par jouer défensivement et avec Gradel qui les a un peu sauvés sur toute une partie de la saison. Bon là, sachant que si on met plus bas, c'est relégation à 90%, enfin, il ne resterait plus beaucoup de marge. Florent, est-ce que tu penses que ça va se stabiliser, faire mieux, moins bien?
Ouais, je pense que ça va être stable. C'est-à-dire que le stadium risque de ne pas trop vibrer l'année prochaine, mais je pense que Toulouse va rester 16 ou 17, juste au-dessus de la zone rouge, ou peut-être même 18 barragistes. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui laisse penser que l'équipe pourrait progresser par rapport à cette saison. Ouais. Même s'ils feront peut-être un mercato fou, mais c'est pas dans leurs habitudes. Donc,
perdre leurs quelques bons joueurs en plus.
Ouais, donc c'est pour ça, non, stable. Et puis un maintien peut-être arraché plus tardivement que cette saison. Même si en plus, avec 38 points, ils auraient pu être un peu plus en danger. Mais finalement, le scénario de... Enfin, les saisons vécues par les équipes derrière eux ont fait qu'ils étaient quand même plutôt tranquilles dans les dernières journées, malgré un total de points assez faible.
Raphaël, je vais oublier ton prénom.
Désolé, la machine indestructible. Non, mais je vais dire stable aussi, parce que le souci de ces clubs-là, de plus en plus, c'est que normalement, ils doivent sortir des jeunes du centre qui vont performer pendant 1, 2, 3 saisons, leur permettre de progresser ou de se maintenir. Et maintenant, le foot va tellement vite que les clubs comme ça perdent leurs jeunes avant même qu'ils signent leur premier contrat longue durée. Bon, là, c'est Todibo. Je pense qu'il y a d'autres clubs qui ont rencontré le même souci. C'est des clubs comme ça qui sont en fin de tableau et qui risquent de pas se maintenir, ou qui peuvent pas non plus prendre le risque de donner la place à un jeune, mais qui, en plus, n'ont pas des titulaires très forts. Donc, je vais dire stable, et je pense que ça va être une saison encore très difficile pour Toulouse, qui a un joueur de niveau top 10, qui est Gradel, et beaucoup de joueurs de niveau top 15, top 18. Et c'est aussi pour ça qu'ils se trouvent à cette place, c'est que l'effectif est trop très homogène, mais vers le bas.
Et enfin, pour finir, je finis avec toi, Raphaël, avec un double concept. D'abord, le classement de Monaco. Oui. Et ensuite, l'over-under sur le nombre des... Alors ça, c'est le tien. Je lis, je ne suis pas convaincu par la domination, enfin par l'intitulé de la chose. Ah. Combien de joueurs de moins de 23 ans recrutés par Monaco vont jouer au moins 15 matchs avec le même club la saison prochaine?
Oui. Recrutés à l'été 2018, hein, il faut préciser. Alors Flo lira la liste tout à l'heure, après que je donne mon point de vue sur Monaco. Juste sur le classement, ce sera un over évident, parce que quand même, vu l'effectif et le retour de Jardim et les moyens qui vont être à disposition pour essayer de corriger un peu tout ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour être dans la première moitié de tableau au moins. Après, à voir si les contrats, les recrues qu'ils ont faites dans l'urgence ne vont pas non plus poser problème en termes de construction d'effectifs, d'équilibre salarial, de tout ça. J'ai vu le salaire de Fabregas, c'est,
c'est énorme quand même. Je crois qu'il est à 7 millions 2 à l'année. C'est quand même c'est conséquent pour un joueur de son âge qui en plus n'est pas aussi performant qu'il était même il y a un ou deux ans. Donc ça à voir, mais le over est évident. Et sur les joueurs donc de moins de 23 ans recrutés l'été dernier, parce que c'est quand même le thème de Monaco, c'est qu'ils recrutent que des joueurs de moins de 23 ans quasiment, ou en tout cas jusqu'à l'hiver 2019. Flo va les citer et je vais donner mon avis. Vas-y Flo, est-ce que tu peux me les citer?
Alors a priori, les 9, ils sont 9. Alors il y a Jubels, Mboula, Grand Cyr, Serrano, Pellegrini, Golovin, Heinrich, Balotouré et Ronald Pierre-Gabriel.
Ouais, donc combien il y en aura qui joueront au moins 15 matchs la saison prochaine
En Ligue 1 ?
En Ligue 1, oui, en Ligue 1, en championnat. Bah, je vais les citer, je pars sur Heinrich, Golovin. Golovin, ça fait deux. Il y en a un troisième que tu as cité qui a joué déjà pas mal cette saison.
Balotouré,
c'est ça, je pense que c'est lui qui va jouer. Et après, ça peut monter à 4 si Pellegrini ressuscite de sa grave blessure. Parce qu'il avait quand même fait des débuts en Ligue 1 assez remarqués, Flo, notamment le match contre Bordeaux, tu l'avais beaucoup apprécié, je crois.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et après, il y a beaucoup d'inconnus parce qu'il y en a certains qui sont arrivés, qui risquent de repartir ou qui sont déjà repartis en prêt cette saison.
Grand Cyr, par exemple.
Ouais, voilà, donc, qui ont eu du mal à s'imposer. Mais je vais dire 4. Donc ces 3-là, plus un quatrième qui va s'imposer. Et je pense que tous les autres, notamment Ronel et Pierre-Gabriel qui a joué 4 matchs cette saison. Donc qui sait s'il y a un départ de Sidibé, mais je dirais 4 et je pense que les autres, on va... Jordi Mboula, par exemple, je suis pas sûr qu'on le revoie souvent.
Florent, est-ce que tu as un avis sur un concours de bras de fer entre Pellegrini, Nikes Zoule et De Ligt sur le concours des bras de fer des moins de 24 ans?
Je pense que De Ligt Zoule, ça peut être
De Ligt, assez... il peut soulever un peuple, hein, s'il veut.
C'est beau.
Mais non, après, sur la question des jeunes joueurs qui vont jouer 15 matchs ou plus la saison prochaine, je rejoins Raphaël avec les quatre mêmes, Balotelli, Heinrich, Golovin et Pellegrini. Maintenant, après Monaco, évidemment over, mais il y a quand même, enfin, il y a 73 joueurs sous contrat. A priori, c'est ce que j'ai entendu plusieurs fois depuis la fin de la saison. Et bon, va falloir faire un énorme ménage à ce niveau-là. Il y a aussi des prêts. Est-ce qu'ils vont conserver Gelson Martins? Ça, c'est une question qui se pose parce que je crois qu'il n'est que prêté. Je suis pas sûr qu'il y ait d'option d'achat obligatoire. Il me semble. Et en plus, avec les 6 mois qu'il vient de faire. Même si c'est un petit peu éteint avec le reste de l'équipe, je serais pas surpris que Simeone soit pas contre l'idée de le récupérer. Donc il y a quand même pas mal de questions qui se posent. Falcao va partir. C'est quand même leur seul mec qui a dépassé les 5 XG sur l'ensemble de la saison. Il termine à 15 XG pour 15 buts marqués d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est très rigolo puisqu'il a 2 expected assists pour 2 passes décisives. Donc il a vraiment été dans les clous et dans la moyenne. Même si d'un attaquant comme ça, on attend généralement qu'il puisse faire un petit peu mieux. Mais voilà, c'est une équipe qui va repartir de zéro, qui va d'abord devoir décider qui part, qui reste, et reconstruire un nouveau noyau. Est-ce que ce sera Jardim aussi sur le banc? J'ai pas l'impression que ce soit une certitude aujourd'hui. Donc, c'est une équipe qui, évidemment, normalement, de par ses moyens, sera over l'année prochaine. Maintenant, est-ce qu'elle sera over pour jouer le podium ou over et se retrouver top 8 top 8 voire top 10, il y a encore quelques incertitudes parce qu'au final, aujourd'hui, bien malin est celui qui peut deviner ce que fera Monaco l'année prochaine.
Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tous les joueurs recrutés cet hiver aussi? Les Chadli, Naldo, Vainqueur, Nkoudou.
Les joueurs qui ont été prêtés aussi ailleurs et qui vont revenir. Enfin bref, ça va être un sacré bordel cet été et il va falloir d'abord faire un tri avant de pouvoir parler d'ambition au classement et de Coupe d'Europe la saison prochaine.
Il y a. Y a... Ah, 42 Raphaël. Joueurs pardon, qui ont joué pour Monaco en Ligue 1 cette saison.
Magnifique statistique, alors qu'il y a pas mal de clubs qui n'ont pas, oui. pas 30 joueurs dans le groupe pro. Quoi. Genre Galtier, vous en voulez 20-21 l'année prochaine à Lille. Donc bon, c'est un petit peu étrange comme chiffre. Raphaël, pour conclure cet épisode déjà très très long, est-ce que tu as des petits top flops sur les recrues? Alors certaines ont déjà été évoquées, mais sur s'il faut faire un bilan, parce que malgré tout, on parle des entraîneurs, mais c'est aussi... Enfin, parfois, il suffit d'un bon recrutement, d'un bon joueur pour faire basculer une saison dans le positif. Est-ce que tu as des trophées à remettre, soit en positif, soit en négatif, pour les clubs de Ligue 1?
Non, mais je vais dire le meilleur recrutement pour plein de raisons différentes, à la fois pour la qualité du joueur, là où ils sont allés chercher et ses performances cette saison, c'est Atal à Nice, parce que c'est bien de voir le foot français s'intéresser enfin au football maghrébin, parce qu'il y a, je pense qu'il y a plein de bons joueurs dans ces championnats-là. Alors on se moque parfois de nos amis Algériens qui disent toujours qu'ils ont un top joueur qui joue au Qatar depuis des années et qui va venir faire des différences en Europe et gagner la Ligue des Champions. Il y a toujours, c'est jamais le même, mais bon, je me rappelle de commencer à parler de Abdoun il y a quelques temps. Donc, mais là, pour le coup, Attal, c'est un super joueur et il risque de pas rester longtemps à Nice. Je suis même pas sûr qu'il soit encore là en août. Mais je pense que c'est le meilleur recrutement. Il y a d'autres candidats, mais ça me semble être celui qui réunit le plus de critères pour dire que vraiment là, sur tous les plans, que ce soit le directeur sportif, les scouts, l'observation, comment ils l'ont intégré à l'équipe, c'est la réussite la plus totale cette saison en termes de recrutement, je pense.
Et toi, Florent, est-ce que tu veux prendre position sur un joueur en particulier ?
Non, mais sur un recrutement global, et ça sera pas très surprenant, mais Lille, avec les joueurs qu'ils ont pris pour leur 11, en tout cas, c'est pas vraiment trompé. Alors, José Fonte, on pouvait se dire que c'est quelqu'un qui allait arriver et qui allait stabiliser une arrière-garde qui avait besoin d'un patron, donc ça, on pouvait le deviner, mais ne pas s'être trompé sur Bamba, sur Ikoné, sur Celik, surtout, qui a fait une très bonne saison au poste de latéral droit. C'est quand ça offre quand même, c'est un très beau mercato qui compense un petit peu le mercato totalement raté de l'été précédent et qui a été fait par les mêmes personnes d'ailleurs. Et après, à un niveau un petit peu moindre, peut-être que la pire recrue en termes de rapport qualité-prix, même si peut-être qu'il réussira à dépanner l'OM l'année prochaine sur des à-coups, mais au-delà du cas de Strootman dont on a déjà parlé du contrat, c'est Radonjić qui a coûté très cher à l'OM. Pour au final un bilan très faible, même si c'est vrai que je pense que si on creuse quelques recrues du côté de Monaco, je pense qu'on trouvera pire. On peut penser à Pelé par exemple, qui leur a coûté, je sais plus, 8 millions je crois, l'été dernier, il me semble.
Et qui, en tout cas, il leur a coûté beaucoup trop par rapport à ce qu'il a rapporté fois où on l'a vu.
Mais c'est vrai que du côté de Marseille, la saison de Radonjić par rapport à, de toute façon, beaucoup d'observateurs du championnat serbe, etc., qui sont présents sur Twitter, étaient très surpris du montant du transfert et du fait qu'il signe à l'OM. Donc, et c'est vrai que ceux-là n'ont pas été surpris, mais c'est vrai que débourser, je crois, 12 millions sur un tel joueur et voir ce qu'il t'a apporté, et voir surtout ses limites tout au long de la saison, il y avait peut-être 5-6 millions à mettre sur un joueur de Ligue 1 et qui aurait fait au moins aussi bien, quoi.
Le seul truc positif, c'est que parfois à ce poste-là se révèlent des joueurs qui, dans le bon contexte, vont pouvoir faire leurs statistiques. Alors ils deviendront pas bons pour autant, mais tu pourras rentabiliser ton investissement. Je veux dire, même Gezal avait réussi à partir en Première Ligue à Leicester.
Oui, sur une ou deux bonnes saisons.
Je sais même plus si c'était fin de contrat ou s'il y avait une indemnité, mais en tout cas, il avait réussi à trouver un bon club sur un truc où il profitait quand même un peu du système et de sa position avancée. Donc, les ailiers, parfois, sur 6 mois, tu peux donner l'illusion d'être un bon joueur et faire un transfert, mais c'est vrai que je suis pas persuadé que Radonjić ait un avenir doré du côté de Marseille. Merci messieurs pour ce point complet et bien long de la saison de Ligue 1. Alors, avec beaucoup de projections sur celle à venir. Mais en même temps, bon, déjà, on avait parlé de la Ligue 1 au fur et à mesure. C'était un peu quand même l'un des fils rouges de notre année. Et puis, deuxièmement, il n'y a quand même pas énormément de choses à dire sur cette saison qui n'était pas folle. Donc, du coup, autant se projeter sur la suivante en espérant qu'elle soit un petit peu plus sexy. Et pour terminer ce 50e et avant-dernier épisode de la saison, on passe comme d'habitude au Paris avec notre partenaire PM.fr. Les paris que je vais débuter avec Raphaël. Donc, ça sera des matchs. Alors, il y aura trois matchs de Ligue, enfin de Coupe européenne et un match pour Florent de barrage. Toi, Raphaël, c'est les deux Coupes européennes, donc Chelsea-Arsenal, Tottenham-Liverpool. Je t'écoute.
Oui, alors je vais commencer par Chelsea-Arsenal, puisque c'est dans la chronologie le premier match qui arrive, c'est mercredi, c'est dans 2 jours. Bon, on ne fera pas de retour du coup sur la Ligue Europa, mais bon, on s'excuse.
Sauf si la finale de Ligue des Champions est nulle, qu'on l'expédie en une demi-heure au prochain épisode, qu'on a l'opportunité de dire quelques mots en fin d'épisode. Possible.
Oui, enfin, à ce moment-là, vous aurez surtout envie d'aller au Murphy's, donc je suis pas sûr que ce sera la priorité, mais bon, on verra, peut-être. Non, mais Chelsea-Arsenal, donc, c'est deux équipes qui ont fait des saisons assez étranges, deux équipes qui ont peu de garanties défensives, si tu fais le bilan de la saison, qui sont capables de marquer, de dominer, parfois dans le jeu, de manière différente, mais qui, défensivement, ont été souvent en tout cas écartelés par les adversaires et de façon différente aussi. Donc je pars sur le fait que les deux équipes vont marquer.
et que l'une d'entre elles va gagner le match donc dans les 90 minutes, je l'espère. C'est à 2,35. Bon, déjà, je pense que Sarri, il est à moitié en train de préparer la finale, à moitié en train de préparer le mercato de la Juve. Donc, à voir comment ce sera préparé et comment les joueurs vont réagir aussi à cet aspect-là. Je trouve ça très, très particulier comme moment à gérer. Mais je pense que les joueurs sont concentrés sur leur finale, mais tu sais quand même que ça se trouve, c'est le dernier match avec ce mec-là. Est-ce que tu l'aimes ou pas? Bon, bref. Tout ça, on ne peut pas savoir, on n'est pas dans le vestiaire. Mais voilà, c'est deux équipes qui, je pense, vont provoquer du jeu parce que Chelsea essaye de construire, parce qu'Arsenal essaye de presser, d'embêter les adversaires. Donc, j'imagine un match pas forcément aussi ouvert que les demi ou les quarts de finale parce que tu n'as que 90 minutes. Mais les deux équipes qui marquent, ça me paraît quand même assez logique, t'énerve pas. Et à 2,35, c'est plutôt bien payé. Ça me permettra pas de rattraper Flo, je pense. Mais bon, au moins de sauver l'honneur et pourquoi pas être pas loin du positif.
Alors qu'il y a beaucoup de sirènes dans votre entourage.
Oui, bah, toujours dans le 18e arrondissement, tu sais, c'est toujours des sirènes.
Hein. Absolument. Donc Tottenham-Liverpool, pour finir, un pari assez audacieux de ta part.
Oui, bon, audacieux, je sais pas, parce que je ne sais pas de quel côté il va arriver, mais je pars sur l'idée d'un penalty marqué. Donc, bon, il faudra déjà qu'il y en ait un qui soit sifflé, mais on va imaginer qu'il sera marqué. Pour plusieurs raisons, la première étant évidemment la VAR, qui a montré sa capacité à donner des penalties un peu dans tous les sens et parfois n'importe comment. Mais au moins, je pense que là, s'il y a une vraie faute, elle sera vue, elle sera montrée, elle sera sifflée. Et je pars aussi sur le profil des joueurs. Alors, du côté de Liverpool, avec Mané, Salah, Firmino, t'es toujours pas très loin de provoquer un penalty. Tu peux imaginer qu'un centre de Robertson ou Arnold aussi difficile à gérer peut te mettre en difficulté. Et du côté de Tottenham, avec du Lucas Moura, du Son, je suis pas sûr que les défenseurs de Liverpool, genre Matip, qui voit de son côté arriver un Son qui repique depuis la gauche et qui arrive dans son coin de la surface, je suis pas sûr que la désarticulation de Matip gère très bien le coréen. Donc un penalty sifflé, je le vois bien. Bon, j'espère qu'il sera marqué. Mais à 3-10, c'est plutôt pas mal. Et je vois bien avec la VAR maintenant installée comme ça, des fautes évidentes ou même parfois semi-évidentes être vite sifflées.
Florent, on va conclure avec toi déjà sur la transition Tottenham-Liverpool. Tu as aussi un pari sur ce match.
Ouais, c'est le but de Sadio Mané. Alors, à la base, j'étais parti sur le but de Sadio Mané qui, il me semble, est à 2,30. Mais j'ai décidé d'avoir un peu de panache pour finir la saison. Et peut-être même que ça me coûtera la première place à la fin. Mais vu que je suis en négatif, je crois, à moins 4 ou moins 5, là, je vais essayer de, sur un coup, de repasser en positif. Donc, au lieu de jouer le simple but de Sadio Mané, je vais jouer le doublé. Comme le doublé qu'il avait, par exemple, mis en Ligue des Champions face au Bayern Munich, pardon, puisque Liverpool, il joue à Liverpool quand même. Donc il avait mis un doublé, c'était en huitième de finale face au Bayern. Et je me dis que bon, si je le joue buteur, autant voilà, y aller avec du panache et jouer le doublé. Le doublé est à 9,50, donc ça me remettra en positif s'il arrive à le mettre. Et puis tout simplement parce que c'est à mon sens le meilleur, en tout cas l'attaquant qui a été le plus régulier cette saison pour Liverpool. Et ça ferait sens qu'un joueur qui a été présent dans tous les rendez-vous importants des Reds cette saison, même s'il n'a pas, par exemple, pas marqué lors de la remontée, lors du comeback face à Barcelone en demi, ben, je me dis qu'il va marquer en finale et que c'est peut-être lui qui va permettre à Liverpool de soulever le trophée en fin de soirée.
Et pour finir, on change totalement d'ambiance sur Lens-Dijon.
C'est vrai, Lens-Dijon, donc c'est le barrage aller qui a lieu jeudi soir, il me semble, à Bollaert.
Oui, c'est ça. Oui.
Et en fait, le pari, c'est simplement de dire que Lens ne va pas forcément gagner, mais ne va pas prendre de but. Je crois que la cote, Christophe, est à 2,30, que je t'ai envoyé, ou 2,25.
2,25.
Et pour justifier ce pari, je vais simplement vous citez les dernières performances à domicile en fait de Lens qui sur les 9 derniers matchs a réalisé 6 clean sheets dont une face à Metz, une face au Havre, une face à Valenciennes, une face à Clermont dernièrement. Alors certes, ils ont fini face à Orléans et ça s'est terminé sur un 5-2, mais c'était la dernière journée et on peut se dire qu'il y a eu un peu de relâchement, comme il y a souvent du relâchement dans les dernières journées. Avant, il y avait eu une petite défaite 1-0 contre Lorient, une victoire 4-1 contre Niort, mais voilà, sinon on est sur 6 clean sheets lors des 9 dernières journées. Donc, premier argument qui va dans le sens d'un clean sheet lensois face à Dijon. Et en plus, quand on compare ça avec les résultats à l'extérieur de Dijon sur les 8 dernières journées, eh bien Dijon n'a marqué qu'une seule fois à l'extérieur, en tout cas que lors d'un seul match. Et c'était lors d'une victoire 3 buts à 1 sur la pelouse de l'OL. Mais sinon, leur résultat, c'est 2-0 à Nîmes, 3-0 contre Paris, 1-0 contre Lille, 1-0 contre Guingamp, 1-0 contre Caen, 3-0 contre Nantes, et dernièrement 4-0 contre le PSG, puisque le précédent match contre Paris, c'était en Coupe de France. Donc voilà, Dijon qui généralement ne marque pas à l'extérieur, Lens qui généralement, majoritairement, n'encaisse pas à domicile. Du coup, bah, le Paris, Lens n'encaissera pas de but à la maison contre Dijon, mais voilà, ce sera peut-être un 0-0 à l'arrivée, qui sait, on verra.
Écoute, j'ai plutôt bien aimé ton argumentation pour ce Combouaré-Co.
C'est vrai.
Antoine Combouaré sera face à l'un de ses nombreux anciens clubs, le RC Lens, qui le gérait quand Lens était en Ligue 2, si je ne dis pas de bêtises. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter, on va pas rappeler toutes les plateformes, etc. Vous connaissez, et puis de toute façon, c'est la fin de saison, donc on imagine.
Tu vas quand même rappeler le code PMU.
Voilà, c'est ça, mais laissez-moi finir mes phrases, je vous remercie. Donc j'allais dire, c'est la fin de saison, donc vous connaissez ces réflexes-là. Par contre, ce que vous n'avez peut-être pas encore fait, c'est aller sur PMU.fr. Et si vous y allez et que vous mettez VDB, les trois lettres magiques, en code promo, vous aurez 10 euros de free bet en plus de l'offre de bienvenue qui doit être de 100 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est toujours ça prix. Et puis ça peut permettre de mettre un petit peu de piment pendant ces finales européennes dans lesquelles, si vous n'êtes pas supporter d'un club anglais, vous n'aurez pas d'enjeu et d'attache émotionnelle particulière. Mais si on se retrouve lundi, dimanche...
Bon, ça dépendra de nous, ça, Christophe, de toute façon.
Ça dépendra de notre état de forme. En tout cas, après la finale de Ligue des Champions... Et puis c'est là-dessus qu'on clôturera cette cinquième saison. Donc voilà, on était très contents de vous parler tout ce temps, mais on aura l'occasion de finir en beauté avec ce match entre Tottenham et Liverpool pour la victoire la plus importante de la saison, le plus important trophée du foot européen. Merci Raphaël, merci Florent.
Merci la machine.
Salut.
Et puis bah, à très bientôt.
Ciao.
Cordialement.
Vous pensez avoir tout compris ? C'est le moment de parier sur PMU.fr, le numéro 1 du pari.